Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour ce nouveau podcast, votre podcast hebdomadaire du mercredi, bien évidemment, enregistré hein, sur la table rouge laquée la plus incroyable d'Internet, qui est la remplaçante de la table à repasser,
l'antique, la vénérable.
Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé.
Exactement, mais vous verrez, un jour vous aimerez cette table.
Elle est toujours
rouge
dans nos cœurs, hein, la table à repasser.
Exactement, mais tu verras que le jour où on va changer de table rouge, les gens demanderont la table rouge laquée. C'est un cycle éternel. En tout cas, c'était le podcast 139, c'est la certitude que nous avons aujourd'hui. Un podcast fort intéressant hein, qui va parler des prochaines innovations que nous allons retrouver dans les jeux vidéo, dans les années à venir et même dans les semaines et mois à venir.
Oui.
Et pour en parler, eh bien, nous avons le retour de CAF, notre expert de la technique, du PC, etc. Parce qu'il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Ça va, CAF ?
Ça va bien. Ça fait, vous m'avez manqué, 6 mois déjà. Hein. Ça passe.
Ça fait déjà 6 mois.
Bah ouais.
Ouais. Mais, I'm back.
Exactement. Mais en tout cas, là, effectivement, on va avoir des points sur le PC. Hein. Qu'est-ce qui avance technologiquement sur le PC ? Le PC qui est une machine qui a amené énormément de nouvelles technologies par le passé.
C'est un bon laboratoire.
Est-ce que c'est toujours le cas ?
Oui. C'est un bon laboratoire. On va en parler. Tu vas voir. Il y a toutes les innovations sont pratiques à mettre en œuvre sur le PC. Si ça ne marche pas, on les vire et on met autre chose à la place.
Il y a le réseau aussi, hein, le cloud computing. On va parler des DRM hein, et qu'est-ce que ça change un petit peu dans les jeux vidéo. On va aussi bien évidemment parler de la 3D relief hein, qui est en train d'envahir les jeux vidéo après avoir envahi eh bien, les écrans de cinéma. Et puis bien sûr, la captation de mouvement avec eh bien, la Wiimote qui a lancé vraiment ce mouvement justement. Et puis aujourd'hui, Natal et le PS Move à la fin de l'année, on a pu y jouer au premier jeu, aux premières démonstrations. On va vous donner, pour ceux qui n'ont pas encore tout vu, tout su, tout compris, toutes les informations sur ces différents aspects. Et pour ça, Julo et Raon sont présents. Ça va les gars ?
Ça va très bien.
Vous avez eu l'insigne honneur hein, justement de jouer il y a quelques jours hein, à Projet Natal. Dans l'ancienne demeure de Monsieur Kenzo.
Ouais, je veux dire que ça m'a plus frappé que Natal encore.
C'est clair,
ouais,
c'est que vu la gueule de la baraque en même temps. C'est
une immense maison près de Bastille à 12 millions d'euros. Et oui, rien
que ça. Ah, tu connais le prix ?
Ah, ouais, parce qu'on se demandait justement. On a essayé de calculer le prix au mètre carré et tout.
C'est fort sympathique.
12 millions d'euros, d'accord.
Il faut savoir qu'il a ramené carrément des pierres géantes du Japon.
Ouais, ouais,
d'accord.
Des jardins sont incroyables. Le jardin est incroyable.
Voilà, mais ce n'est pas le cœur de ce podcast. Et vous avez aussi la chance de jouer au PS Move. Il y a pas longtemps avec
dans un endroit plus modeste, mais c'était sympa quand même.
Une pièce un peu plus réduite.
Et bien justement, messieurs, pour commencer cette 139e émission des podcasts de Gameblog, on va commencer hein, par ces deux technologies qui vont s'affronter à la fin d'année. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas trop encore? Où est-ce que ça va? Est-ce que c'est une technologie vraiment d'avenir? Ou plus simplement hein, une sorte de complément? On commence par Natal, qui est clairement celui qui nous fait le plus rêver hein, depuis des mois, parce que c'est l'offre, on va dire, la plus sexy. Hein. On n'a plus rien dans les mains, c'est Minority Report, ça a été très bien emballé par Microsoft lors du dernier E3. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Quoi qu'il en est ?
Qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce qui se passe ?
Voilà, parce que c'est vrai que le buzz est en train de retomber un petit peu.
Bah c'est ça, oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que depuis, alors la présentation de l'E3 était évidemment très enthousiasmante, mais bon, effectivement, de l'eau a coulé sous les ponts, c'était en juin dernier, donc ça va faire bientôt un an qu'on a eu le premier contact avec Natal. On a pu y rejouer récemment, c'était une présentation, il faut le savoir, pour la presse généraliste et spécialisée, donc il y avait des gens pas du tout du jeu vidéo, etc. Et ils nous ont montré la même chose que ce qu'ils avaient montré à l'E3, en fait, il s'appelle Ricochet, c'est une petite démo de jeu qui ressemble en gros à un casse-brique, t'as ton avatar dans un couloir, tu tapes des ballons qui vont rebondir vers le fond du couloir pour casser des briques.
Et les ballons évidemment te reviennent à la figure et il faut les renvoyer. Mm-hmm.
Hein. Voilà, tu peux y jouer à un ou à deux. Mm-hmm. Donc il n'y a pas eu énormément d'évolution sur cette démo-là.
Alors, pas sur la démo, mais c'est vrai que néanmoins, il y en a une dont on a peut-être peu parlé, mais qui est d'importance, elle est technologique, c'est que la démonstration qu'on avait eue il y a un an, souviens-toi, à l'E3, c'était Natal sur un PC.
Exact.
Et c'était, on va dire, la première version de Natal qui intégrait une puce à l'intérieur même de la caméra pour calculer, il y avait un processeur à l'intérieur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la démo à laquelle vous avez pu jouer, c'est Natal version plus définitive, en tout cas l'objet, qui était lié à une Xbox 360.
Ouais, alors ça restait un proto, mais effectivement, c'était une caméra. Alors, je ne sais pas si les gens se souviennent, mais il y a une petite caméra aussi dont j'ai oublié le nom, qui existe sur Xbox, une caméra toute bête. Hein. Mm-hmm. Donc, c'était sur le même pied blanc comme ça. L'appareil lui-même faisait une vingtaine de centimètres de large à peu près, et était effectivement branché en USB directement sur une Xbox de développement.
À noter que ce n'était pas le même qu'on voit en photo partout, qui est noir assez fin. Là, il était beaucoup plus épais, il était tout blanc.
Et d'ailleurs, interdiction de le filmer, de le prendre en photo, c'est pour ça qu'on n'a pas pu vous le montrer.
Exact.
Ça sent le prototype du coup.
Ils ont bien dit que c'était effectivement un prototype. Donc on parlait tout à l'heure de la retombée du buzz. Au-delà de la démo dont on va reparler brièvement là, ce qui nous a fait surtout retomber un petit peu, c'est la réception des premiers kits de développement chez les développeurs. Donc à partir du moment où tu as ce genre de truc qui arrive, les développeurs commencent à tester les technologies, à développer des petits protos, etc. Mmh. Et ils commencent effectivement à parler entre eux et à parler à leurs amis journalistes. Et donc effectivement, il semblerait qu'il y a eu un certain nombre de problèmes avec ces premiers kits. Il y en a de nouveaux qui sont apparus depuis notre article sur la question. Ils vont très probablement continuer à travailler dessus jusqu'à la veille ou l'avant-veille de l'E3, où il y aura des vraies présentations de vrais jeux prévus.
Alors justement, il y aura la présentation Microsoft, la traditionnelle conférence, mais en amont,
ouais.
Le 13 juin, c'est un dimanche,
c'est ça.
Il y aura une présentation, une conférence exclusivement dédiée à Natal, avec ce qui était présenté initialement comme le line-up de lancement, avec donc des produits de Microsoft, mais aussi des produits éditeurs tiers. Sauf qu'apparemment, avec l'arrivée des nouveaux kits qui semblent plus performants que ceux qu'ils avaient jusqu'à présent, ils doivent repenser pas mal de choses. Et du coup, on a eu pas mal d'échos d'éditeurs, de
qui
développeurs
disent qu'ils sont charrettes, là.
Qui risquent d'être un petit peu short pour le 13 juin, et on risque d'avoir surtout pas mal de démonstrations Microsoft.
Bah écoute, on verra. Enfin, en tous les cas, ça, c'est les bruits de couloir qui tournent, effectivement. On va pas rentrer trop dans les détails, parce que ça, c'est un peu soporifique, mais...
Est-ce qu'on peut lister un petit peu tous les points, les éléments qu'on a maintenant en notre possession, les choses qui marchent, qui marchent pas, les carences? Par exemple, on sait maintenant que Natal, en fait, ne détecte pas les mains ni les pieds, mais plutôt...
Pas directement, en fait.
Pas directement,
voilà. Il les interprète un petit peu avec les mouvements des bras et des jambes, mais par exemple, si vous regardez la vidéo, la vidéo de notre test de Natal qu'on a posté sur Gameblog, vous pouvez peut-être me voir à un moment avec le bras sur le côté en agitant la main. Mm-hmm. Donc, quand on fait ça, par exemple, effectivement, Natal ne le répercute pas à l'écran. C'est-à-dire que si tu ne bouges que la main sur le côté, la main de ton avatar à l'écran ne bouge pas. Par contre, dès que tu bouges le bras, tout fonctionne normalement. Donc le principe, pour ceux qui l'ignorent, c'est qu'effectivement la caméra capte le squelette, la morphologie du joueur, et peut suivre 48 points répartis partout sur ce squelette. Le problème a priori de ce squelette, c'est qu'il n'incorpore ni les mains ni les pieds.
Et justement, je me fais un peu candide, mais il y a bien évidemment une des démos qui avait fait un peu rêver les gens, et c'est très Minority Report, c'est de naviguer dans les menus juste à la main, voilà. Et quand on s'imagine à la main, bah justement, je le dis, c'est pousser nonchalamment avec la main. Sauf que vous l'avez essayé et que ça marche pas comme ça.
Bah. En fait, il faut fixer Julo. Son... Dans la démo à laquelle on a pu jouer, tu pouvais choisir entre un avatar garçon ou fille. Et on nous montrait, voilà, il fallait mettre le bras devant soi, attraper une espèce de petite boule et la faire bouger, glisser de droite à gauche. Mm-hmm. Donc là, en fait, que tu refermes ta main ou pas, il ne se passait rien du tout. Il fallait juste garder la main immobile pendant un moment sur la petite boule. Et ensuite, il captait que tu avais ta main, enfin, en l'occurrence, c'était ton bras, parce que c'était vraiment devant toi, et tu pouvais faire bouger de droite à gauche.
C'est le bras, en fait.
Oui, la main ne faisait rien, en fait. Tu pouvais laisser la main ouverte. Tu
n'avais pas vraiment besoin d'attraper physiquement la main en refermant tes doigts sur la boule, quoi. C'était pas utile.
Et d'ailleurs, on le sait, il y a des projets de jeu qui avaient été développés, en tout cas pensés
chez Arkedo,
en utilisant les doigts, justement, comme si on faisait ses doigts se transformer en petits pieds. Et finalement, apparemment, ça a été avorté, parce que c'est tout simplement pas possible. Natal ne le détecte pas.
Effectivement. Alors, en dehors de ça, il y a d'autres choses qui fonctionnent plutôt bien. Par exemple, ne serait-ce que ce qu'il faut savoir, c'est que Natal, il n'y a pas de calibration. Par exemple, c'est pas le cas du PS Move, même si elle est très limitée, il y a une calibration sur le PS Move. Dans Natal, pas du tout. Tu sautes dans l'espace de la caméra et ça y est,
il te repère.
En une fraction de seconde, il te repère. Ton avatar apparaît à l'écran. Pareil, quand tu as un deuxième joueur qui se met devant, nous on a essayé avec Julo d'inverser nos positions en plein milieu de la partie.
Il détecte bien.
Il n'y a pas eu de problème. Il a bien gardé les deux avatars.
Cela dit, ce qui détectait moins, c'est que par exemple, donc on était l'un à côté de l'autre, donc il y avait nos deux avatars à l'écran. Et si je passais ma main devant le buste de Raon, ça lui faisait un peu
chaud,
péter les plombs. Alors ça faisait chaud de ton côté, mais à l'écran il ne se passait pas grand chose, et si ce n'est en fait une petite embrouille, il comprenait pas trop ce qui se passait. Quand t'intervertis vraiment les deux positions, là passe devant l'autre, se retrouve à droite, celui qui était à droite se retrouve à gauche, là il capte assez facilement.
C'est-à-dire qu'il y a des petits problèmes avec les occlusions, dès qu'il y a des choses qui sont des plusieurs parties du corps qui sont l'une derrière l'autre, ça cache à la caméra.
Justement, la profondeur, par exemple, est-ce que ça a un impact de faire un geste fort ou un geste lent? Est-ce qu'il prend en gros la vélocité des mouvements?
A priori, oui. Le problème, c'est que sur la démo Ricochet, c'était très difficile de s'en rendre compte, parce que t'as plein de balles à l'écran, ton avatar est gigantesque, le mur est pas, enfin la pièce dans laquelle tu renvoies les balles est pas très profonde.
En fait, pour répondre à ta question, j'ai envie de parler surtout du problème essentiel. Moi, c'était la première fois que je pouvais essayer Natal. J'étais pas avec vous à l'E3.
Tu nous as manqué.
Oui, bah, vous aussi, hein, beaucoup, comme toujours. Moi, vraiment, ce qui m'a beaucoup déçu et surpris même, c'est de voir ce temps de latence qu'il y a entre le moment où tu vas faire un mouvement et le moment où va être répercuté à l'écran ce mouvement. Il y a probablement quelques millisecondes. Hein, je suis incapable.
125 millisecondes, après.
C'est ce que disent les développeurs. Après, bon, moi, je sais pas le calculer. Tout ce que je vois, c'est que quand je bouge mon bras, il bouge avec une fraction de seconde de plus à l'écran. Pour ta question sur la précision et la force des mouvements que tu peux mettre, c'est assez difficile de répondre parce qu'avec la démo qu'on avait là, du fait de cette imprécision, tu jouais un peu n'importe comment et tu essayais d'anticiper le mouvement un petit peu des ballons pour voilà, et puis de temps en temps tu maîtrisais pas trop le moment où tu allais taper la balle, etc. Donc moi, c'est cette imprécision générale due au temps de latence qui m'a gêné et qui fait que du coup tu peux pas vraiment te rendre compte de tout ce qui est possible dans la force des coups, dans la profondeur, etc.
Pour bien se rendre compte que ce que ça fait, 125-150 millisecondes, parce que dit comme ça, on se dit c'est infinitésimal.
Pas mal quand même.
Millisecondes, c'est pas grand chose.
C'est super beaucoup.
Allez voir par exemple la news qu'on avait fait sur Natal qui reconnaît les sexes. Il reconnaît si vous êtes un homme ou une femme. Et vous verrez, on a pris une image où on voit très clairement. Le mouvement de l'humain qui est en train d'être filmé par Natal, il a le bras quasiment baissé et on voit son avatar derrière qui a le bras totalement en haut quasiment, et alors que bon, quand on regarde à l'œil nu, il passe de là à là et puis on voit l'avatar qui fait la même chose, sauf que quand on fait un arrêt sur image, on voit qu'il y a ce décalage de finalement quasiment un coucher
de bras.
Quand
il est encore tout en haut,
et voilà. Et du coup, dans des jeux qui demanderont de la vitesse, de la précision, de la réaction aujourd'hui, mais attention, Natal n'en est encore qu'à l'état de prototype finalement, même s'il va falloir commencer à se dépêcher, il risque d'avoir cette latence, quoi.
C'est quand même assez inquiétant, je trouve. Je veux dire,
c'est le problème le plus flagrant de l'ensemble de cette promesse pour l'instant, c'est qu'effectivement, s'il n'y avait pas ce lag, en fait le problème aussi c'est que le lag il est relatif, c'est à dire que ça dépend du mouvement que tu fais. Et du coup c'est bizarre parce que par exemple il n'y a pas autant de latence quand tu bouges ton bras sur un plan latéral de haut en bas par exemple,
que quand
comme
tu
si tu essayais de voler par exemple comme un oiseau, ou si tu le bouges effectivement derrière ou devant toi. Il y a plus de latence quand tu bouges en profondeur qu'en latéral. En tous les cas sur la démo qu'on a essayé, donc du coup c'est un petit peu bizarre et c'est problématique pour les jeux, parce que si au moins tu avais une latence constante, tu peux la compenser au niveau software, tu peux faire genre bon si je sais que j'ai 150 millisecondes toujours, on va la prendre en compte et voilà, on va se démerder avec.
Ce qu'on a appris aussi, c'est que justement Microsoft, dans la documentation qu'il donne aux développeurs avec le kit de développement, spécifie bien que, s'il vous plaît, messieurs développeurs, ne pensez pas des FPS intégralement avec Natal.
Il le déconseille apparemment.
Voilà, ce qui est quand même assez genre, symptomatique. Un genre qui va vite, qui demande de la vitesse. Microsoft dit que si vous pouviez éviter...
C'est révélateur, c'est simplement parce que... Et moi, c'est la conclusion que j'en retire après l'avoir essayé, c'est qu'on ne pourra pas faire de jeu précis sur Natal. En tout cas pas si on en reste là au niveau hardware et au niveau reconnaissance de mouvement, parce que on va faire qu'une seule chose, c'est s'énerver devant les jeux, quoi. Ça va être terrible. Donc on peut, à mon sens, on peut faire que des jeux un peu casual, quoi, dans lequel la précision ne sera pas le maître mot, quoi.
Sauf que une chose dont on avait déjà parlé avec Raon lors de l'E3 et qui nous semble intéressante avec Natal finalement, c'est que Natal va permettre de cumuler à la fois l'utilisation de la manette et aussi de la reconnaissance de mouvement. Et on l'a vu, on l'a appris avec le prochain Ghost Recon Future Soldier de Ubisoft, qui mariera à la fois manette pour jouer à un FPS, quoi, traditionnel, et par exemple faire le mouvement du jet de grenade, ce genre de choses, pour renforcer l'immersion. Il devra y avoir aussi d'autres titres Ubisoft, on pense par rapport au Lapin Crétin qui devrait être montré, et on imagine bien qu'avec Natal ça pourrait être quand même assez fun.
Bon, je sais pas si le lancer de grenade c'est la meilleure idée qu'ils aient pu avoir, parce que tu dois quand même lâcher la manette pour le faire.
Tu dois viser,
c'est à dire qu'il faut que le jeu interprète la vélocité à laquelle tu lances ta grenade pour être sûr de la mettre où tu veux.
Ça, quel bordel,
c'est un peu compliqué, mais
ça serait le bordel.
Mais sans aller chercher aussi loin, sur un FPS, le lean, c'est à dire se pencher sur les côtés pour quand t'es planqué derrière un mur par exemple, tout ça c'est très simple à faire. Natal pourrait le faire très facilement, et ça peut être sympa de gérer un système de couverture où tu joues complètement la manette, mais juste en penchant la tête. Tu penches ta vue, ta vision. Ou alors, on peut imaginer, comme la petite démo sur DS qu'on avait vue, qui joue avec la profondeur de l'image, qu'effectivement, en décalant ta tête, tu peux voir sur les côtés, comme si ta télé était une fenêtre aussi. Mais rien que ça, déjà, c'est sympa.
Autre élément sur lequel on a des interrogations, et vous allez pouvoir y répondre, parce que vraiment, c'est très frais encore dans vos têtes, c'est la distance par rapport à l'écran. Et ça, c'est un petit souci, c'est qu'il faut tous, a priori, avoir des lofts, puisque dès qu'on dépasse les 1m80, on passe à quasiment 3 mètres de recul, c'est ça, Julien?
Ouais, c'est l'une des premières choses que j'ai vérifiées. Mm-hmm. On n'a pas tous des appartements de ministres. Donc, et on a souvent une table basse, un canapé assez rapidement devant la téloche.
Un truc pour vivre, quoi.
Voilà, tout simplement. Donc là, évidemment, on était pour cette démo dans les meilleures conditions possibles. Hein. C'était une pièce assez gigantesque sur laquelle il y avait un grand tapis vert. Devant la télé, il y avait
bien éclairé.
Une distance de, voilà, c'était bien éclairé, il y avait, je sais pas moi, peut-être 6 mètres, 7 mètres de longueur.
Le truc qui
n'existe
pas chez le gamer de
voilà.
base.
Bon, bref, nous, on jouait à environ quoi, 4-5 mètres de la télé, 4 mètres
Peut-être un peu moins, 3 mètres.
Oh 3 non, mètres non, non, moins, plus que ça. Et donc moi, je fais 1m85 hein, pour, voilà,
pour
vous faire une idée, je suis trop deg. Parce qu'effectivement,
on peut raboter les jambes.
Je me suis rapproché petit à petit pendant la démo pour voir jusqu'à quel point il captait mes mouvements correctement. Et arrivé dans les 2 mètres 50 presque même, il y avait déjà beaucoup de difficultés et paf, un décrochage qui fait que je devais absolument ça met le jeu en pause machin quand t'es plus là et tu te remets en position, hop, le jeu se remet immédiatement parce qu'effectivement la reconnaissance du enfin je veux dire de l'humain qui se met devant la caméra est immédiate et très bien foutue. Mais par contre voilà, quand t'es proche, trop proche et trop loin aussi d'ailleurs, ça arrivera peut-être à certains, je sais pas.
Monsieur, vous avez un appartement trop grand.
C'est ça.
Mais en tout cas voilà, il y a un champ bien défini de présence devant l'écran qui fait que ça, voilà, qui doit être respecté pour que ça fonctionne bien.
Vraiment.
Ouais, ceci dit, d'après ce qu'on nous a expliqué, Natal, en fait, avant d'opérer pendant le jeu, détecte un peu le volume de la pièce et s'ajuste en fonction.
Il te donne une mention. Salut bonjour. Salut Pecno.
En fait, quand tu allais bonjour, jouer, il te demande ton salaire annuel.
Bonjour,
tu gagnes entre 20 000 et 40 000 euros. Entre 40 000
et donc, a priori, si on a une pièce plus réduite, il devrait s'adapter et voilà. Après, tu peux aussi toujours jouer avec, peut-être avec des trucs, des grands angles ou tout ça, comme il y en a sur Lightoy ou des choses comme ça. Donc, c'est encore difficile de se rendre compte avant d'avoir le kit final et de le mettre vraiment en condition de savoir.
Avec des vrais jeux.
Ouais, avec des vrais jeux aussi, quelles sont les limitations de ça, quoi. Voilà. Mais ça fait partie des trucs qui nous font un peu peur. Ouais.
Ça va être,
mais
ça fait chiant. Un peu peur, surtout qu'on on nous dit voilà, on fait une démo là, on est donc au mois de.
Juin.
D'avril.
Oui.
On est au mois d'avril. C'est censé sortir donc à l'automne prochain et on nous dit que c'est les mêmes démos qu'à l'E3.
Non mais c'est étrange quand même. Il y a eu un problème de communication au sein de Microsoft. Hein. Voilà. Microsoft France avait pas.
Parce que nous,
pertinent le fait de présenter une démo.
Tout ce dont on peut parler aujourd'hui, c'est de ce qu'on a vu, quoi, quelques mois de l'E3. Donc a priori, vous allez être bluffé quand vous alliez être.
Bah, on l'espère.
Voilà, en juin prochain, c'est tout ce que je souhaite aussi, parce que je dois dire que moi, ça me faisait rêver sur pas mal de trucs, et là, genre.
Et puis il y a toujours plein d'autres trucs qui font partie de cette promesse et dont on n'a pas fait l'expérience, parce que il y a un micro, s'il marche très bien, ça peut être aussi sympa. Il y a l'histoire du scan où il peut reconnaître les visages ou incorporer des
planches de skateboard,
par exemple. Tous ces trucs là on n'a pas vu de démonstration
fake.
Et voilà, c'est ça,
vrai,
on est quand même
fake.
Très 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 loin de la vidéo de présentation de l'année dernière.
Bah ça a pipoté, c'était du beau marketing,
ça vendait du rêve, quoi.
C'était bien fait. Mais... j'aurais beaucoup aimé jouer quand même à la fameuse démo de Burnout, parce que voilà,
bah qui te décrochait quand même, c'est ce qu'on dit dans la vidéo. Ça marche quand ça marche très bien, c'est-à-dire faire la vitesse etc avec le pied, c'est super, mais parfois boum,
enfin, avec le pied, avec la jambe,
avec le
pied, ça marche pas.
Caf.
J'en profite d'avoir que des mecs super fit et tout autour de la table à part moi.
Super fit,
super
en forme,
svelte, maigre à voir. pour demander justement, Natal, au-delà de tout ça, si ça marchait bien, vous kiffez l'idée même de bouger devant le truc?
Pas pour tous les jeux, mais pour certains.
Il y a des trucs où t'as vraiment envie.
En fait, quelque part, non, mais la question c'est, est-ce que ça va remplacer la manette, etc. Pour moi, c'est évident que non. Mm-hmm. Et donc voilà, moi, je pense que tous les, il y a des plaisirs pour tous. Et je pense que voilà, j'adore me faire un Wii Sports.
Et on
l'a fait tourner cet été, Wii Sports à fond la caisse.
Ouais, j'ai cru comprendre, les gars.
Et on a surkiffé, mais en même temps, on jouerait pas à tous les jeux comme ça, tu vois.
Non, d'accord.
Donc moi, je le vois vraiment. Comme gadget, c'est peut-être un peu voilà, mais c'est
ça va se mettre entre le best, enfin,
une nouvelle façon.
Moi je suis comme toi, même si j'ai pas ta surcharge pondérale. mais je suis comme toi, mais j'ai pas envie de m'agiter forcément trop devant ma télé. Et en plus, de toute façon, c'est pas fait pour, vu que j'ai mon lit de place devant la télé. chez moi. Donc voilà, vous savez que moi je joue couché sous la couette, mais ce que
tout
je
suis smart, devant.
Ce qui me fait plaisir moi dans Natal justement, c'est la possibilité de mélanger les deux, ce qui est pas le cas de la plupart des autres propositions.
Non, c'est vrai que ça c'est pas mal.
Je serais impatient de voir par exemple ce que peut faire un mec comme Kojima ou autre qui aime bien un petit titiller de joueur de manière, tu sais, en cassant le quatrième mur. Voilà, ça c'est assez sympa de pouvoir s'imaginer des trucs.
Il y a beaucoup de développeurs japonais qui se sont dit assez intéressés.
Moi en fait le truc auquel je pense, c'est que, et on va en reparler quand on va parler des autres technologies, mais dans l'histoire déjà récente des technos pourtant hyper simples, il y a plein de trucs qui ne sont pas imposés du tout chez Monsieur Tout-le-Monde parce que c'est super chiant à mettre en place. Là on parlait du recul, de la place de la table basse. Ouais. On va prendre un truc hyper simple, le 5 points, le son 5 points. Mm. C'était les cartes sonores 5 points machin sur PC, etc. C'était la folie pendant 3-4 ans. Plus personne n'en parle.
Aujourd'hui, sur le marché, c'est du 2 points. Aujourd'hui.
Bon, tout le monde s'en fout du 5 points maintenant. Mm-hmm. Tout le monde utilise le chip intégré de sa carte mère, de son machin, etc. Et puis personne n'en parle. Parce que c'est juste super chiant de mettre des enceintes derrière, dans un bureau, dans un machin, dans son salon. Oui, le home cinéma, ça a explosé parce que la pièce est dédiée à ça.
Ah, mais tu sais que mais maintenant, le home cinéma, là, super chiant, quoi. La grosse demande à home cinéma aujourd'hui...
C'est des barres sonores, c'est une seule enceinte.
Il y a les barres sonores et il y a surtout le 2.1.
En bien fait. Sûr.
Et ça se vend beaucoup plus que le 5.1.
Ah, mais le 5.1 a toujours été un marché de niche. C'est pour ça qu'on va en reparler quand on va parler de la 3D, relief, parce que c'est un abus de langage et ça m'énerve et j'y reviendrai. Mais c'est vrai que pour moi, la mise en place de ce genre de truc, et s'il y a des contraintes, genre bah non, t'es gentil, maintenant tu vas déménager dans un loft et tu démerdes, ça va être
si on t'offre le loft avec, moi je prends.
Oui, Microsoft, 50 euros le loft,
faire
putain,
chier
à installer
les 5 points et tout si j'ai 2000 mètres carrés.
On est bien d'accord.
Il y a cette dimension là, il y a aussi le fait, voilà, si la Wii a cartonné et s'est imposée, a imposé ce nouveau gameplay, etc., cette nouvelle façon de jouer, c'est parce que c'était dans la boîte.
Ouais. Non, mais c'était...
Et que là maintenant ça sera pas dans la boîte, donc ça concernera pas tout le monde.
Ça le sera une fois que ce sera sorti.
Et puis attention, il n'y a pas de contrainte.
Oui, mais il y a combien de Xbox dans la nature.
Regarde, sur la Wii, t'as pas de contrainte finalement. Tu peux jouer coincé entre table basse et ton machin. Enfin, genre, démerde-toi.
Oui, parce qu'effectivement, tout le monde au début faisait les grands gestes, mais finalement, on s'est rendu compte quand même très vite que ça servait
bien
à rien.
Bien sûr, ouais, tu peux jouer sur ton canapé avec les coudes sur les cuisses. Genre, ouais, ok, super.
Ah, bah, vous l'avez vu dans la vidéo de Muscle March, hein, les différents styles d'utilisation de la Wiimote, dont celui de Mr. P. Et qui a un résultat incroyable, hein, ça marche très bien. Pourtant, il fait un petit moulinet d'à peu près 2 degrés. Mais ça fonctionne.
C'est l'optimisation, ça s'appelle.
C'est ça.
C'est Mr. P. Tout Mr. P résumé.
Quelque chose. Il va à la boulangerie, il fait pas un pas de trop.
Quelque chose qui risque de ne pas fonctionner non plus avec le PS Move d'ailleurs. Oh là là, non, parce qu'effectivement lui par contre il y a une vraie détection dans l'espace, ça on a pu s'en rendre compte et tu peux pas le gruger vraiment en faisant des petits mouvements à la con quoi.
Ouais, s'il faut faire un grand moulinet pour balancer un gros coup d'épée,
Il sait vraiment exactement où se trouve l'extrémité du PS Move dans l'espace et donc du coup s'il te demande de faire un vrai grand mouvement, par exemple le tir à l'arc c'est tout bête, mais tu joues avec deux PS Move donc t'en as un qui symbolise l'arc, l'autre ta main qui va aller chercher la flèche au carquois, tu peux pas t'amuser à juste le retourner comme ça face à l'autre, c'est pas possible, faut vraiment que t'ailles derrière ta tête pour chercher ta flèche, l'ajuster et tout. Et le tir à l'arc, il est mortel.
Moi, je vais kiffer parce que moi, c'est exactement ce que je fais avec une Wiimote, même si je sais que ça marche pas. J'aime me mettre dans la peau du personnage. Dans Zelda, je fais des grands moulinets de la première heure de jeu jusqu'à la 35ème.
Mais justement, moi, le PS Move.
Et après, tu t'effondres.
Non.
Après, il me permet d'être svelte.
Voilà. En fait, le PS Move m'intéresse vachement, du coup.
Ouais.
Mais le concept me parle plus que le Natal que je. Je sais pas.
Mais le concept du PS Move, c'est grosso modo la même chose que
la. C'est la Wiimote, mais pour la PS3.
C'est la Wiimote qui marche.
Vous savez quoi, on va en parler à peu près 45 secondes, mais on conclut avec Natal. Il y a un élément encore déterminant, important, c'est la question du prix.
Oui.
Alors, pour l'instant,
Microsoft
n'a pas communiqué dessus encore. Néanmoins, il y a des informations d'analystes, etc. Le prix se situerait
entre 50 et 70 dollars, quelque chose comme ça. Enfin, il y a eu des premières rumeurs qui disaient que Microsoft voulait le sortir à 50 dollars. Donc, a priori, en pack aussi, je pense. Hein, c'est-à-dire avec la caméra, probablement un jeu ou un ensemble de mini-jeux quelconques. Les dernières rumeurs qui circulent disent qu'ils chercheraient éventuellement à augmenter le prix. Tout ça sera annoncé à l'E3.
Et puis il y aura peut-être des bundles aussi, peut-être une Xbox 360 Slim pour relancer un peu la tendance.
Pour donner l'impression d'un vrai lancement, quoi.
Ouais.
Un bundle avec un jeu qui soit bien.
On n'aura pas longtemps à attendre en tous les cas.
Je sens que ça sera un multi-épreuve sortif.
Ouais. Voilà, oui, c'est fort possible.
Au hasard.
Ben, écoutez, on vous donne rendez-vous le 13 juin sur Gameblog. Raon, on sera avec Mimic, on sera avec Cédric, notre cadreur de l'extrême, pour vous faire vivre le 3 en direct de Los Angeles. Et puis tout le reste de l'équipe sera vraiment à Paris, avec Poufy aux manettes pour les vidéos. Je te regarde, Poufy, je te regarde. et pour vous faire vivre vraiment le 3 au plus près, les conférences quasiment en direct, même certaines, on va vraiment faire en sorte qu'elles soient en direct, que vous puissiez les vivre pleinement. Et comme ça, vous aurez toutes nos impressions sur Natal, sur les jeux et sur le PS Move dont nous parlons maintenant. Alors le PS Move, c'est la courbe totalement inverse. Vous l'avez compris, Natal s'est monté très très haut. C'est en train de descendre un petit peu en termes d'excitation. Le PS Move, c'est parti très très bas. Hein. on est tous foutus de la gueule.
Ouais, on a bien rigolé.
Ah ouais, que c'était une copie, que ça avait l'air ridicule. À notre décharge, quelque part, les développeurs aussi nous disaient... Ouais, bof, c'est pas terrible, on sait pas trop ce qu'on va en faire, etc. Mm. Et puis, de fil en aiguille, les deux courbes ont fini par se croiser, et désormais, on se rend compte, et vous allez nous en parler, vous l'avez vraiment testé, que le PS Move est finalement peut-être la promesse des trois entre le Wii Motion Plus, Natal et le PS Move, celle qui est la plus précise. Et puis, les développeurs sont plutôt agréablement surpris.
La plus polyvalente, finalement, en fait, parce que... tu peux avoir 4 Wiimote sur une Wii, tu peux avoir 4 PS Move sur une PS3, ou bien le couple, parce que pour ceux qui l'ignorent encore, le PS Move seul, c'est-à-dire le stencil avec le globe lumineux, voilà, le code Miko lumineux, sera commercialisé avec une autre partie qui s'appelait avant le subcontrôleur et qui s'appelle maintenant le Navigation Controller, donc avec un stick analogique dessus, d'autres boutons, etc.
En sans fil. Hein.
Et le tout est effectivement sans fil.
Contrairement au
Wiimote.
Pour moi,
c'est un gros avantage, parce que combien de fois ça m'a cassé les noisettes d'avoir un fil entre mon Nunchuk et ma Wiimote.
En même temps, sur Wii, ça te permet d'avoir autant de couples que tu veux, alors que sur avec le PS Move, ça sera soit 4 baguettes magiques, soit 2 baguettes magiques chacune reliées à un Nunchuk.
Mais rien ne dit encore qu'on ne puisse pas les relier par un fil. Voilà. Parce qu'il y a des prises en dessous, il y a des choses en dessous de ces deux accessoires.
On verra bien.
Et on pourra les charger en tout cas comme des.
Exact, ça marche exactement comme des DualShock. Tu branches avec le même câble USB pour les recharger.
Il y a une batterie intégrale. C'est plutôt pas mal parce que sur les Wii Motion Plus et compagnie,
c'est
le
genre d'accessoires qui sont tristes.
Si t'as pas des piles rechargeables.
C'est clair.
Donc voilà.
Alors qu'est-ce que ça vaut ? Une fois que vous l'avez en main, on va commencer par les choses très simples, la prise en main. Est-ce que la manette est agréable ?
Moi perso, j'ai trouvé ça plus agréable qu'une Wiimote, parce que la Wiimote, elle est un peu carrée. Donc tu sais, t'as plein de jeux par exemple où faut la secouer très vite pour réagir, etc. Et au bout d'un moment, quand tu joues plusieurs heures, moi après ça te démange à l'intérieur de la main. Enfin, c'est pas forcément très agréable. Là, le PS Move, il est entièrement rond. On n'y a pas joué non plus des heures et on l'a pas agité comme ça, mais ça a l'air d'être quand même plus ergonomique.
Tu veux nuancer ?
Assez d'accord sur l'ergonomie. La trigger, donc la gâchette qui est en dessous, est très accessible, très bien, ça tient bien dans la main. Simplement, il y a un bouton principal, hein, comme sur une Wiimote avec le bouton A. Donc c'est un gros bouton avec le logo Move dessus. Et de chacun des côtés, t'as deux boutons. Donc c'est les boutons carré, triangle, croix et carré.
Et rond. J'étais sûr que t'allais te planter, je sais pas pourquoi.
Ouais. Et bref, enfin t'as les quatre boutons classiques de façade d'un contrôleur PS3. Simplement, ce qui est assez étrange. Bon, déjà ils sont tout petits,
ils sont vraiment tout petits, assez secs.
Par contre ils ressortent bien, donc on les trouve facilement. Mais moi j'étais vachement perturbé parce que le triangle pour moi c'est en haut, la croix c'est en bas, le rond à droite et le carré à gauche, et là ils sont répartis à gauche à droite. D'ailleurs je suis incapable de te dire comment. Je crois que c'est triangle et carré à gauche, enfin bref. Donc
grave.
Du coup je m'embêtais comme à l'époque des tout débuts de la PlayStation à regarder la manette en fait pour voir sur quel bouton je devais appuyer. Bon, cela dit, dans quasiment l'intégralité des jeux auxquels on a joué, c'était le gros bouton qui servait, et puis évidemment le capteur de mouvement, quoi. Donc globalement moi je trouve ça très très bien, je trouve ça même très joli, les couleurs des diodes de la petite boule.
Alors elles changent en fonction des actions, c'est ça?
Elles peuvent changer en fonction des actions. Il y a une couleur par joueur pour les trucs en multi. Par exemple, quand on a fait notre partie de ping-pong, t'as un joueur qui est bleu, un joueur qui est vert,
c'est très facile,
et du coup tu identifies immédiatement qui navigue dans les menus, tu vois, parce que par exemple sur Wii t'as un petit numéro avec ton curseur ou une couleur machin, mais tu l'as pas sur ta Wiimote, alors que là c'est immédiat et tu te poses même pas la question. C'est en fait, c'est tout bête comme idée, mais c'est super bien vu. La couleur de ta boule lumineuse correspond à ta couleur dans le jeu.
Tu l'as en bas sur la Wiimote, mais il est pas affiché tout le temps.
Oui, hein, c'est vrai, oui. Kef a raison, il y a des petits, il y a les petits carrés.
Les petits carrés, mais un, deux, trois, pas mis en avant.
Oui,
c'est juste pas, faut regarder quoi. Mieux que quand non, tu mais... connectes en fait.
Et puis non, aussi quand, ah, tu pointes, plus, ouais. quand tu pointes l'écran, ce qui est bien, c'est que bah, t'as la petite couleur de ta boule qui aussi apparaît à l'écran, c'est le petit curseur que tu déplaces, parce qu'il faut savoir qu'évidemment, on navigue dans les menus exactement comme avec une Wiimote. Hein. Voilà, ouais. C'est une télécommande qu'on pointe vers l'écran et on bouge comme ça, voilà, pour aller cliquer sur les options.
Parce qu'il y a le PlayStation Eye aussi.
Oui, ça marche effectivement en conjonction avec la caméra.
Qui filme en fait les choses.
La caméra filme la pièce et en fait un espace véritablement 3D. C'est l'avantage de cette techno, c'est qu'il y a une reconnaissance parfaite dans la profondeur, les côtés, la hauteur, etc.
Vous avez essayé de baisser la luminosité de la pièce pour voir si ça détecte bien.
On a tiré les rideaux,
On l'avait vu avec iPad par exemple. Dès que la luminosité baisse, le PlayStation Eye a quand même du mal à repérer.
Franchement, là, aucun problème. Il s'en branle puisque de toute façon la lumière est émise par le stencil lui-même. Donc même à la limite, ça doit même lui faciliter la tâche, effectivement. Donc, puisque toute la luminosité du reste de la pièce baisse sauf celle de l'ustensile lui-même.
Il y a un truc qu'il faudra qu'on teste quand même, je viens juste d'y penser, c'est par exemple ta boule elle est verte, t'as un gros t-shirt tout vert. Est-ce que ça peut gêner?
C'est quand même très lumineux. C'est vraiment, ça se détache de tout quoi. Et puis t'as toujours, faut pas oublier, t'as toujours à l'intérieur des capteurs de mouvement en plus. C'est pas juste.
Il y a des capteurs à l'intérieur aussi.
Il y a pas dans la partie. C'est plusieurs systèmes mélangés en fait. D'accord. Dans la partie, j'allais dire Wiimote, enfin dans la baguette.
Le manche quoi.
Dans le manche. Voilà. Pas dans le
navigation controller.
A priori,
ça vibre aussi. On est
d'accord. Alors le PS Move lui vibre, le sub contrôleur on n'a pas pu regarder, le navigation controller pardon, on n'a pas pu vérifier, mais le PS Move oui, il vibre. La boule est molle, c'est important de le dire aussi. C'est-à-dire que.
Parce que pour l'instant, il n'y a pas de dragon. Donc si l'objet file de vos mains.
Voilà. Ça, c'est pas très grave.
S'écrase mollement contre votre écran.
Ah, et puis, même si t'imagines les enfants dans un jeu de gladiateurs, ils se donnent des coups d'épée, il n'y a pas de danger. Quoi. Ouais. Ils peuvent se planter avec le PS Move, il n'y a pas de problème, c'est mou. Voilà.
Vas-y,
Bon, mais pour parler quand même du plus intéressant,
les jeux
et puis surtout la qualité de la reconnaissance de.
Alors, est-ce que juste avant d'entrer dans les jeux, vous pouvez nous dire quels sont les jeux, d'abord tous les jeux que vous avez vus, et puis après, on va faire le détail.
Alors, il y avait un jeu multisport, évidemment. Donc, c'est un Wii Sports. Like, sauf que cette fois évidemment on n'est pas avec des petits avatars rigolos, etc. C'est des personnages modélisés en 3D de manière ultra réaliste, etc.
Réaliste. Avec un style cartoon, tu vois, mais
avec quand même un style cartoon parce que tu
en HD quoi.
Les personnages que tu choisis, c'est un Indien, un Californien, une
blonde,
petite chinoise,
un peu ringard, faut l'avouer,
un peu ringard. Mais bon, vraiment, ça sentait vraiment le jeu démo quoi. Donc voilà. Et donc dans ce jeu multisport, on a pu s'essayer au ping-pong, au tir à l'arc et un troisième que j'oublie, le combat à l'épée bouclier. Voilà.
Ouais.
Et en plus de ça, on a pu aussi essayer un jeu de boxe, ou plutôt un jeu de combat de rue. Dans lequel tu prenais un truc dans chaque main et tu faisais droite, gauche, uppercut, crochet direct. Voilà.
Et alors, comment ça marche?
Alors, par contre, comment les deux trucs qui m'ont le plus convaincu personnellement, c'est le tir à l'arc et le ping-pong. Donc le ping-pong, c'est exactement la même chose que dans Wii Sports, à une nuance fondamentale près, c'est que le personnage à l'écran ne se déplace pas tout seul. C'est vraiment, ça suit tes mouvements à toi, ce qui fait que tu dois vraiment aller chercher les balles un peu difficiles.
Quand tu dis tes mouvements à toi, c'est pas avec le stick de navigation controller, c'est tes mouvements humains avec tes jambes.
Ouais,
c'est ça. Hein.
Parce qu'en fait, par exemple, tu te baisses, ton avatar se baisse à l'écran, tu vas la gauche, etc. Oui, il suit vraiment ton mouvement.
Mais si tu baisses la main, il sait que tu te baisses.
Non. Si tu baisses juste la main, il croit que ton avatar
que
se baisse.
Ouais.
Mais dans les faits, après, quand tu joues, il faut vraiment que tu te déplaces pour aller chercher les balles.
D'accord.
Toute proportion gardée, parce que bon, on a joué à deux et on s'imagine qu'effectivement les mêmes problématiques d'espace peuvent se poser que celles avec Natal.
Faut se mettre l'un devant l'autre en fait, parce que sinon c'est pas possible. Enfin, on avait un peu de mal à pas se toucher alors que la pièce était quand même assez large.
Oh, j'ai pas, moi tu m'as pas gêné moi.
Ah bon, t'adores quand je m'approche de toi aussi.
C'est ça.
Ou alors il veut dire qu'il t'a battu, je sais pas.
Mais non, parce qu'en plus j'ai commencé et je menais 6-1, il a remonté jusqu'à 8.
Pas mal.
Il a fini par me battre.
Ouais.
C'était
un peu joué au début quoi.
Ouais.
Non, mais alors ce qui est intéressant vraiment, c'est que alors effectivement bon, alors déjà avant même la reconnaissance vraiment dans l'espace 3D, c'est-à-dire devant, derrière, sur les côtés, en haut, en bas, la reconnaissance directe de ce que tu fais avec la main, avec le PS Move dans la main et donc le poignet qui bouge, etc., c'est une restitution absolument identique à l'écran. Quand tu joues par exemple le ping-pong, je me suis amusé avant de servir à bouger ma raquette dans tous les sens, etc. Si t'as envie de frapper avec l'autre côté de la raquette, bah tu tournes le poignet, tu frappes avec l'autre côté de la raquette.
Et par rapport au Wii Motion Plus?
Et bah justement, bah ça, tu peux, le Wii Motion Plus par exemple, tu décides de jouer à la chinoise, tu prends ta Wiimote à l'envers, il se passe rien à l'écran. Et là, quand tu décides de jouer à la chinoise, bah tu joues à la chinoise. C'est-à-dire tu tournes
la raquette,
Plus.
L'orientation de la raquette retrace
un pour un celle du PS Move.
Ah, vraiment à l'identique. Tu te bouges, etc. Tu peux aller un peu plus vite, de faire des mouvements très lents et très précis. Ça reproduit à l'identique. Et l'autre truc hyper intéressant, c'est ce que disait Raon à l'instant, c'est la reconnaissance vraiment dans l'espace 3D. C'est-à-dire que la caméra va filmer ta pièce en faire un véritable espace 3D. Et contrairement à Wii Sports avec le jeu de ping-pong, où tu vas en fait faire un coup droit, un revers, mais où le personnage va toujours aller chercher la balle du bon côté. Mmh. Parfois, même si t'es du mauvais côté et que tu fais un coup droit, il va quand même faire un revers à l'écran, etc. Là, si Raon en face de moi m'envoie une balle bien forte sur un côté, il va falloir que moi je bouge vers la gauche et que j'aille chercher la balle, quoi. Et ça, c'est vraiment très différent de Wii Sports. Donc, t'as une reconnaissance vraiment parfaite. S'il va faire une balle amortie qui va être toute proche du filet de mon côté, je vais devoir m'approcher et la frapper.
Et te vautrer dans l'écran.
Voilà. Et de la même manière, reculer quand Raon va frapper fort, etc. Donc, ça, c'est vachement intéressant parce que voilà, d'un côté, on peut faire des super effets et de l'autre, le mec en face doit vraiment aller chercher les balles que tu fais, quoi.
Ok.
Voilà. Et pareil pour les autres jeux, finalement, c'est pas forcément hyper visible, mais par exemple, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, le tir à l'arc, faut vraiment aller chercher ses flèches. Du coup, toi, tu vas kiffer grave parce que tu dois vraiment prendre ta flèche, connecter les deux PS Move pour encocher ta flèche sur l'arc, après tirer, lâcher, viser, etc. Donc, ça marche très bien aussi.
Tu dois vraiment mimer les gestes, quoi.
Ouais, sauf que enfin, si tu le fais pas, tu décocheras pas ta flèche, quoi. Ça va pas partir tout seul en appuyant sur un bouton. Faut vraiment le faire.
Faut vraiment que tu tendes la corde. Dans Wii Sports, tu le fais un petit peu pour le fun. Là, tu dois vraiment l'attendre.
Ouais, la puissance de ta flèche dépend directement de l'éloignement de tes deux bras.
Et le jeu de baston ?
Alors, le jeu de baston.
Il était peut-être moins avancé.
Il était beaucoup plus avancé graphiquement.
Ouais.
C'était assez joli, etc. Par contre, il était beaucoup moins avancé au niveau reconnaissance de mouvement. C'est-à-dire que, en fait, quand tu collais un coup, une droite par exemple, il fallait attendre un peu qu'il revienne à sa position de garde avant de décocher un autre mouvement. Tu pouvais pas faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, comme ça, et que ça soit reproduit fidèlement à l'écran. D'ailleurs, il y avait un petit temps de latence dans ce jeu, contrairement au jeu de sport auquel on a joué.
En regardant la vidéo qu'on a filmée, moi je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un temps de latence entre les mouvements qu'on faisait et leur reproduction à l'écran. La différence, c'est que le temps de latence, il est trop faible pour qu'on s'en rende compte quand tu joues, quoi.
Il est moins important que Donatel ?
Largement.
Ouais. Ah ouais, c'est vraiment un rapport à l'immédiat, moi, que j'ai en direct. D'accord. Peut-être effectivement quand on se voit après en vidéo, c'est autre chose, mais pour conclure, disons juste sur ces deux technologies, moi je dirais juste avec le PlayStation Move, l'impression que j'ai, c'est qu'on peut on va pouvoir jouer à des jeux un peu plus précis et donc à des jeux plus intéressants
et une variété de jeux plus importante, ouais.
Voilà. Oui. Et c'est un peu voilà tout ce que j'en retiens, c'est que la précision fait que ça donne un panel de jeux possibles plus intéressant, quoi.
Vraiment, pour conclure, il y a aussi l'histoire du prix.
Oui, alors eux, ils l'ont annoncé à la GDC, ce sera une centaine de dollars en bundle avec la caméra, le PS Move, son navigation controller et a priori aussi un jeu. Il y a de fortes chances pour que ça soit le Wii Sports like.
Sport Champion, je crois.
Pour le moment, oui, ça s'appelle comme ça, mais c'est pas sûr
c'est
que
c'est super pas définitif et voilà, c'est pas sûr que ce soit.
Donc, ils remontreront tout ça. Ils ont l'air très confiants. Ils disent, en tous les cas, qu'il y aura énormément d'autres choses montrées à l'E3, y compris des jeux beaucoup plus avancés. Ce qu'on a vu, nous, c'était une vingtaine de pourcents de développement, c'est-à-dire des pré-alpha, finalement très peu avancés. Donc, on aura loisir, encore une fois, en juin, d'en voir plus et puis de se faire une meilleure idée. Mais c'est vrai que pour le moment, la technologie semble beaucoup plus solide et beaucoup plus propice à des expériences variées et précises, donc peut-être plus appropriée pour des joueurs plus hardcore.
On va pouvoir jouer à Killzone avec ça, quoi. Ouais. C'est sûr.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi personnellement, j'ai vraiment l'impression que des deux technologies, Sony est assez suiviste, très clairement. On va dire qu'il copie un peu le sillon creusé par Nintendo avec grand succès, mais que quelque part, ça va leur servir puisque dans, allez, 1-2 ans, grand maximum, quand Nintendo va dégainer avec sa nouvelle console de salon, des échos qu'on en a, il devrait garder une technologie assez proche de la Wiimote like, probablement affinée, plus précise, ce genre de choses, mais toujours avec des choses dans les mains. Et du coup, technologiquement, elle devrait être de la puissance d'une Xbox 360 ou d'une PS3 actuelle. Du coup, les développeurs vont se retrouver avec d'un côté, on va l'appeler la Wii 2, technologiquement similaire aux consoles actuelles, et la PS3 avec le PS Move, donc deux interfaces très proches, et Natal, qui sera totalement différent, et qu'en gros, on va avoir du multi plus facile sur ce genre de jeu à faire, à la fois sur la prochaine console de Nintendo et sur la PS3, alors que il faudrait repenser l'interface, etc., pour la Xbox, et que du coup ça va booster le multi, qui aujourd'hui quand on fait du multi PS3, Xbox 360 et pas Wii, et bah bientôt on aura du Wii 2 PS3 et Microsoft un peu à côté et obligé quelque part encore à dégainer avec une nouvelle console et probablement Natal 2, etc. quoi.
Mais alors non seulement c'est vrai, ils l'ont déjà d'ailleurs évoqué, mais même avant que la Wii 2 sorte, si tu développes un jeu qui est basé sur ce type de reconnaissance de mouvement type Wiimote, tu peux très facilement le transposer au PS Move qui a le même nombre d'ustensiles, la même promesse qu'un Wii Motion Plus en même plus précis, sans forcément passer par des tonnes de recodage et de repensage, ce qui n'est pas le cas de Natal qui ne fonctionne pas du tout sur la même base quoi.
J'ai l'impression que les cartes vont encore se redistribuer et c'est vraiment intéressant hein. Je trouve qu'on est vraiment
Il va y avoir une vraie baston du mouvement et de la détection de mouvement, c'est sûr.
Exactement. Je crois qu'on a été assez complet sur la captation de mouvement qui va
jouer
un rôle.
On a fait 40 minutes là-dessus quand même.
Ouais.
Alors qu'il y a quand même plein d'autres choses à voir.
Ça intéresse pas mal de gens, mais effectivement ça va être vraiment. En plus, c'est tout bientôt. Hein. Mais alors, ce qui arrive aussi, c'est la 3D relief. Alors attention, CAF. Je vais te laisser la parole dans quelques instants parce que ça, le mot 3D relief.
Non, 3D relief, ça va. Ça va presque.
Ça va presque.
C'est 3D tout court qui m'énerve.
D'accord. Ah bah oui. Alors, il y a différentes technologies qui sont en train de se battre. Il y a déjà les écrans, hein, parce que sans écran compatible avec la 3D, on va dire,
pas grand-chose.
Le relief, il se passe rien. Les analystes tablent sur 40 millions d'écrans équipés, aux normes 3D, on va dire, d'ici 2014. Donc, c'est pas négligeable. Il y a beaucoup d'éditeurs qui commencent à s'y mettre. Hein. On a Darkworks. Pas forcément l'éditeur le plus incroyable du monde, mais enfin bon, qui se dit être prêt pour la 3D, travailler sur des moteurs, etc. Capcom, qui a clairement annoncé que son le MT Framework, donc son moteur graphique personnel qui a fait Resident Evil 5, Lost Planet, etc., est compatible, il n'y a plus qu'un truc à appuyer et puis c'est parti. On évoque un Killzone 3, GT Gran Turismo 5, on l'a déjà vu en 3D. Mm-hmm. En gros, tout le monde est en train de fourbir un petit peu ses armes. On sait que la PS3, bientôt dans un firmware, va passer à la 3D potentiellement et que la Xbox y pense beaucoup.
Ah, c'est même sûr et archi certain pour la firmware de la PS3. Parce qu'on a vu des trucs aussi là-dessus. C'est D'accord. sûr, ça va venir dans très 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 peu de temps.
Ok. Est-ce que tu nous fais un petit point des différentes technologies ? Comment ça se passe ? Et puis, bien sûr, on l'oublie, la Nintendo 3DS.
Ouais, ok, va être encore un autre truc différent. Ouais. Mais techniquement, déjà, la 3D, il ne faut pas oublier que ça existe déjà, en fait. On peut jouer à Left 4 Dead 2 en 3D. On peut jouer à des simulateurs de vol en 3D, donc à chaque fois, relief. Pourquoi ça m'énerve ? Parce que la 3D, l'appellation 3D, moi, je pense à l'échiquier de Star Wars, aux petits personnages qui sortent et qui se bastonnent. Là, on parle vraiment de relief et donc on a une impression de profondeur. C'est la seule différence. Et on a effectivement déjà des kits sur le marché avec des lunettes synchronisées avec des systèmes de cartes graphiques spécifiques, des écrans spécifiques qui permettent sur PC depuis 2-3 ouais, pas un moment déjà, d'avoir, enfin avec les lunettes actives pas depuis si longtemps, mais Nvidia propose des kits depuis un moment, d'avoir cet effet là en fait.
Tu nous expliqueras un peu actif, passif
Alors en fait
dans d'autres domaines je sais ce que c'est, mais
joli
pas mal bel effort.
Alors t'es plutôt actif.
En fait la 3D relief tout départ c'était très très passif, puisque c'est en fait une dissociation des couleurs, et donc on avait les fameuses lunettes avec le truc rouge, le truc bleu. Ensuite ça fait des effets pas terribles, et si on n'est pas complètement en face, si on bouge la tête, etc., ça va faire des effets pas terribles. Ça se trouve sur les boîtes de Kellogg's, il y a des diffusions
c'est vieux, ça date des années 80
hein. Bah carrément,
ouais. Je me rappelle
même 70,
ça s'achetait avec le programme télé, t'avais l'événement cette semaine, un film en 3D,
c'est le truc sur le truc en relief, on l'avait dans les jeunes de ma génération, n'est-ce pas, donc en 1912, avec des trucs où tu mettais des disques avec une histoire qui était racontée, t'avais déjà cet effet de relief, ça ressemblait un peu à un Virtual Boy, pour donner une idée à ceux qui sont beaucoup plus jeunes maintenant. Ça c'est une techno qui est périmée. Maintenant on utilise des lunettes avec soit des écrans à cristaux liquides, donc actifs, avec les écrans en fait qui vont boucher en fait un œil après l'autre, de manière très très rapide. Ces lunettes là en fait doivent être synchronisées avec un écran. Pour que ça fonctionne, il faut que, je sais pas, si on veut du 60 images secondes, il faut que ça fonctionne à 120. Donc il faut que ça aille très très vite. Donc il faut un écran dédié, une carte pour synchroniser les deux et pour brancher les lunettes. Et donc les lunettes. Le problème, c'est que ça filme le crâne relativement vite à plein de gens. Maintenant, on est sur des fréquences qui sont suffisamment élevées pour que le problème du mal au crâne soit très 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 relatif. Hein.
J'ai pas de bol alors.
Il y a des gens qui jouent à l'effort des deux avec ça et qui juste surkiffent. Maintenant, après, il y a les lunettes polarisées, en fait, où en fonction en fait, de l'angle de chaque œil, hein, ça va permettre de, pareil, de cacher quelque part l'image, mais sans avoir l'obstruction physique du truc. Donc ça, c'est une techno
ça
qui normalement...
Bien,
bah, après, ça dépend de l'angle de vision, ça dépend de l'écran. C'est des technos qui sont encore en train d'évoluer, mais ça marche vraiment pas mal.
Parce que globalement, les télévisions là, qui vont arriver, ça y est, les toutes premières sont déjà dans les boutiques.
On elles sont des... 3D ready, en fait, mais elles ne sont pas vendues avec les lunettes.
Voilà, voilà, il faut acheter les lunettes en plus, qui ne coûtent pas 3 euros, hein, d'ailleurs. Non. Et ouais, qui ne sont pas compatibles les unes les autres en fonction
bah,
des marques.
Parce que ça défend des technos, déjà, parce qu'ils n'ont pas tous, évidemment, pris les mêmes technos.
C'est pas standardisé du tout.
Non, mais attendez, dans la Samsung, là, dont on voit voilà, la pub partout, elle est vendue avec 3 paires de lunettes. M'a-t-on dit. Voilà.
Bah à mon avis, il y a des mecs qui vont l'utiliser comme argument commercial.
J'ai pas des actions chez Samsung.
Juste... Non, mais de toute façon, le but c'est de promouvoir la techno. Donc je suis pas étonné qu'il y ait des mecs qui fassent des bundles, au contraire.
Mais les télés, ça commence à 1500 euros. Il y en a à 2000, 2500 euros. Il y a LG aussi qui s'y met. On est sur des 42, 47 pouces.
Ouais, ce qui est des diagonales quand même très respectables. Hein.
Ouais, ouais,
non, c'est pas mal. Bah, la techno en fait elle-même elle n'est pas compliquée, hein. Il faut être très très clair, là on est plus dans une techno où on a besoin du média, c'est-à-dire qu'on a besoin du contenu pour en fait faire la promotion de cette technologie. La techno elle-même elle n'a rien de révolutionnaire, c'est pas quelque chose qui est mirobolant à faire. Le problème c'est de savoir est-ce que c'est intéressant, est-ce que les gens ont envie d'avoir ces putains de lunettes sur la tête, comment on raccorde les lunettes en fait et comment on les synchronise avec les téléviseurs. Donc ça coûte effectivement cher parce que
c'est plusieurs centaines lunettes, d'euros les lunettes en fait.
Voilà, parce que sur PC en fait les lunettes elles étaient connectées avec un câble parce que t'es à quoi, t'es à 3 mètres de ton écran, grand maximum pour les malades, sinon t'es à 25 cm
dans un salon. C'est pas la même, c'est sûr.
Il faut juste que le câble il aille jusqu'au PC finalement dans un salon, là que la problématique elle est pas du tout la même. Donc c'est beaucoup plus compliqué de ce niveau-là, mais on est vraiment sur une techno qui est voilà, elle existe elle, déjà. Enfin, c'est pas un truc nouveau. Ce qui est nouveau, c'est cette espèce de gros push du marketing et des médias pour essayer de l'imposer parce qu'ils se disent putain, il y a une marge à faire, il y a un truc à faire, il y a tout bêtement du business.
Ouais. Le problème, c'est que pour imposer une offre 3D, il faut qu'il y ait des choses en 3D.
Voilà.
Donc il y a déjà les films en partie. Je suis pas certain que tout le monde soit très amoureux des films en 3D. En tous les cas, moi, c'est pas particulièrement mon cas.
Moi, j'ai cherché un film la dernière fois et j'arrivais pas à le trouver pas en 3D. Et...
Ça faisait chier.
Ben voilà.
Bah, il y a déjà des réalisateurs qui commencent à prendre en plus position contre la 3D. Iron Man 2 sera pas en 3D, par exemple. Les mecs, ils ont fait non, mais ils sont désolés, nous on veut un beau film, mais l'effet 3D qui a rajouté en plus après, genre Alice au Pays des Merveilles, c'est une catastrophe.
Change les couleurs et tout ça, par exemple.
Ouais, bah,
mais parce que t'as pas la bonne. T'as un problème de luminosité.
Tout le monde. En plus, tout le monde n'est pas égal face à la 3D parce que, donc, il y a un mot fondamental qu'on n'a pas prononcé sur le système de la 3D, c'est que ça marche par la stéréoscopie.
Voilà.
C'est-à-dire que ça marche exactement comme dans la vraie vie. Chacun des deux yeux a un angle de vue différent sur ce qu'il voit et la mise au point se fait lorsque la ligne de vue de chacun des yeux se touche. C'est le point de focal. Et pour créer l'effet en 3D, il faut donc que tu aies deux yeux. Ok ? Les bornes ne peuvent pas voir en 3D. Donc
c'est un scandale pour les bornes.
Pour d'ailleurs. Jean-Marie.
Voilà. Et oui. Et donc la stéréoscopie, tout le monde n'est pas égal face à ça. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, grosso modo, une personne sur 20 qui ne peut pas voir des images stéréoscopiques.
C'est 10 à 15% des gens, en fait, sont complètement imperméables à l'effet 3D, en fait.
Et puis, si je puis me permettre, quand tu portes des lunettes et que tu portes des lunettes 3D en plus dessus,
ah oui, non, mais...
au bout de 2h30,
alors,
tu
ça,
chiales.
Il y a le problème du confort chiant. Des lunettes, le problème de l'égalité face à la 3D, il y a le problème des contenus. C'est-à-dire que par exemple, la télévision qui reste quand même l'utilisation numéro 1 des écrans aujourd'hui, elle ne sera jamais en 3D.
La Coupe du Monde va être filmée en 3D.
Alors ça peut aider effectivement,
ça aide
la porte d'entrée, c'est le sport.
Sans déconner, là au précédent grand salon des nouvelles technologies japonaises, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, c'est pas bien grave, il y avait Panasonic, Samsung, etc. qui présentaient ces caméras, mais des petites caméras comme notre Z7, etc.
Avec double objectif
pour filmer, mais même pas, là on n'est pas dans des 45 000 euros la caméra, c'est du 10 000 euros la caméra, c'est pas donné, mais ça donne
pour les pros, ça va.
Voilà, pour filmer en 3D. Hein.
Je vais citer, je disais ça parce qu'évidemment moi j'y connais absolument rien en télé, hein.
Ça s'appelle.
Mais je vais citer un certain Luc Saint-Elly qui est responsable de communication nouvelles technologies chez Panasonic, qui dit « Je pense que la télévision ne sera jamais totalement 3D, et ce parce que la technologie n'est pas intéressante pour tous les programmes. De même, du point de vue de l'équipement, il semble impossible que les grandes chaînes de télévision émettent un jour en 3D. Il faudra que leurs émissions soient toujours visibles par des téléviseurs noirs et blancs, et l'investissement en nouveau matériel serait conséquent. »
J'ai pas compris le truc du noir et blanc là.
Noir et blanc ou des télés traditionnelles, en fait c'est le même principe qu'aujourd'hui. Finalement t'as beaucoup de télés qui n'émettent pas encore en HD par exemple,
ouais.
Parce que ça coûte cher de rééquiper toutes les régies, parce que ça coûte cher de d'émettre en 3D, que c'est pas la même bande passante, en HD, que c'est pas la même bande passante.
Et puis tu peux pas te permettre de perdre des parts de marché des gens qui peuvent pas suivre l'évolution.
Voilà. C'est-à-dire que tu peux pas te... Parce que le problème, c'est que quand tu émets en 3D, vous l'avez peut-être fait tous ceux qui ont été au cinéma pour voir un film en 3D, quand tu retires les lunettes,
bah, c'est flou,
l'image n'est pas du tout la même. Tu as deux images rémanentes. Et donc, tu ne peux pas émettre en 3D sur une télé pas 3D. Ou alors, il faut que tu aies deux canaux séparés.
Bah, c'est, ouais, ça,
et
c'est
que
tu
aies, comme tu as TF1 HD ou je sais pas quoi, que tu émettes un canal, chaque chaîne ait son canal pour émettre en 3D. Etc.
Mais enfin, a priori, c'est ce que les grosses chaînes veulent faire. Il va y avoir des tests faits à Roland Garros, etc., avec des France Télévisions qui vont avoir un canal spécial. D'un côté pour la 3D, pour la tester pour l'instant, et de l'autre côté pour monsieur tout le monde.
Alors on verra
comme
effectivement.
Nous, par exemple, qui n'avons pas la 3D.
C'est intéressant, mais je pense qu'il y a plus d'avenir dans Roland Garros sur iPhone tranquillou que Roland Garros en 3D. À part effectivement, enfin tu vois, il y a un confort, il y a des gens qui vont prendre plaisir à le faire. Je dis pas que c'est débile.
Mais Roland Garros, tu dois le voir avec des lunettes de soleil, pas des lunettes en 3D.
Voilà, exactement. Je jette un pavé dans la mare. Quand la 3D sans lunettes. Et là, transition avec la Nintendo 3DS.
Et oui. Et là, on parle d'auto-stéréoscopie, du coup.
Voilà. Avec des écrans spécifiques, en fait. Il y a plein de technos, en fait, qui...
La leaduse, celle qui est apparemment choisie par Nintendo, est une technologie Sharp. Donc, le principe de l'auto-stéréoscopie, c'est-à-dire la 3D sans lunettes, c'est qu'en fait, c'est l'écran qui se charge directement de viser chacun des yeux pour balancer une image différente à chaque œil. Donc le problème de ça, déjà, d'une part, c'est qu'ils n'arrivent pas à le faire avec des écrans qui soient plus grands qu'un écran d'iPhone, en gros, quoi. C'est pour ça que la 3DS peut se le permettre, mais pas les téléviseurs.
C'est pour ça d'ailleurs que son écran sera plus petit que celui de la
légèrement
DSi
plus petit,
XL.
Ouais. Effectivement, a priori, ce sera légèrement plus petit. Le problème, c'est que tu dois être à une distance à peu près fixe de cet écran pour que ça tape bien dans tes deux yeux et que tu peux pas non plus t'amuser à tordre la DS dans tous les sens ou ta tête, etc. Donc, faut jouer dans une position relativement fixe, a priori, pour que l'effet soit...
ce qui est super logique, hein.
Ouais.
Néanmoins, on a eu notre ami Daimaou de Akabara News qui a pu le tester. Hein,
il a été bluffé.
Et il a été bluffé. Ouais. Il souligne qu'il y a quelques images fantômes, effectivement, lorsqu'on n'est pas totalement.
Mais il a été bluffé
face, mais...
spécifiquement par la techno de Sharp.
De Sharp, oui.
Parce qu'il avait vu d'autres écrans en 3D.
De Fujifilm qui équipait ses appareils.
Mais celui-là, apparemment, est d'un niveau très 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 supérieur à tout ce qui s'est fait jusque là
en termes de contraste, de luminosité de rendu
et de rendu tout simplement, et apparemment c'est vraiment bluffant.
Mais
et surtout
sur
que c'est sur Sharp, hein, c'est vraiment c'est ce que va être la 3DS, c'est-à-dire c'est un écran tactile,
ouais,
etc. Tactile. Et ces appareils qui ont été présentés par Sharp d'ailleurs pourront prendre des photos en 3D, des films en 3D, etc., que tu pourras ensuite mater sur l'écran directement de l'appareil en 3D.
Je me pose une question sur la communication de Nintendo pour la 3DS. Ça va être complexe parce que on peut vous montrer l'écran Sharp, hein, sur gameblog.fr. Il y a des vidéos, hein, on les a filmés,
sauf que tu vois pas les faits,
qu'on ne voit rien, limite c'est même moche.
Oui,
donc comment
dur,
ils vont faire Nintendo pour te montrer des pubs de jeux en
à
disant,
mon avis ça sera une image truquée pour donner l'impression de ce que tu vois en vrai, quoi, tout simplement.
Mais le problème, c'est que moi je vois pas effectivement d'avenir immédiat sur cette techno, à part effectivement sur ce genre de truc. Mais si tu prends une photo en 3D et que tu veux l'envoyer à quelqu'un par mail, super, tu fais comment?
Ah ouais, tu peux
pas. C'est hyper limitatif,
c'est pour ta gueule
quelque part. C'est rigolo, mais ça reste super gimmick, ça reste super gadget.
Jusqu'au jour où ce sera standard partout et que tout le monde l'utilisera, et que l'iPhone, il fera
même nos écrans. Imaginons nos écrans de PC s'ils sont auto-stéréoscopiques. Il y a un tout petit détail aussi qu'on a oublié, c'est les télés, donc avec lunettes, etc., même comme on voit au cinéma, l'effet de relief sort de l'écran globalement.
Alors
que l'auto-stéréoscopie de la 3DS et donc de Sharp, ça donne une effet de profondeur à l'intérieur, comme s'il y avait une petite boîte, on était dedans, quoi.
Alors c'est ce qu'ils ont montré. Ceci dit, en théorie, il n'y a pas de raison pour laquelle l'auto-stéréoscopie pourrait pas fonctionner aussi dans le sens inverse. Je pense qu'ils sont peut-être restés à l'effet de profondeur parce qu'il est peut-être plus saisissant et plus facile à capter pour la plupart des gens. Mais je crois pas que en théorie, normalement, cette auto-stéréoscopie là n'empêche pas de faire des images en relief qui sortent de l'écran.
Alors pour information, donc la Nintendo 3DS donc a été annoncée un peu sortie de nulle part, très honnêtement, parce que apparemment, et on le sait maintenant, Nintendo savait que Sharp allait faire son annonce. Ils les ont un petit peu grillé leur grillé la politesse.
Ils savaient que Sharp parlait plus que Nintendo à la presse.
Exactement, qu'il y avait justement pas mal de gens dans la presse qui étaient au courant que Nintendo allait équiper sa prochaine console des écrans Sharp et allait en gros l'annoncer avant même que Nintendo l'annonce. Du coup, micmac entre Nintendo Japon, la maison mère, et Nintendo USA, parce qu'ils ont communiqué sur la 3DS avant même que la DSi XL sorte aux États-Unis. En gros, autant dire que ça freine un peu l'achat de la DSi XL, parce que a priori la 3DS sort maximum à mars 2011, maximum, donc c'est donc pas très longtemps.
Ça va être à la fin de l'année 2010.
Voilà. Elle devrait être présentée à l'E3. Néanmoins, d'écho qu'on a de développeurs qui ne sont pas des petits développeurs, pour l'instant, il n'y a pas encore les kits. Et on s'achemine en tout cas pour l'E3 avec essentiellement des jeux Nintendo, donc probablement un petit Mario et des choses comme ça.
Quelle surprise.
Mais c'est pas sûr en tout cas qu'au début il y ait beaucoup de jeux éditeurs tiers qui soient dévoilés.
Bah rappelez-vous la DS à la base non plus, hein, il n'y avait pas non plus des tonnes et des tonnes de jeux tiers. Bon. Mm-hmm. Faut voir. Moi j'attends surtout de voir ce que parce que bon, il y a plein d'autres choses en plus dans la 3DS dont on n'a pas parlé et qui sont pas vraiment des nouvelles technologies, c'est pour ça qu'on les aborde pas, mais il y a quand même, il y a a priori un accéléromètre, elle vibre, machin, il y a plein de trucs en plus. Je sais pas encore comment est-ce que en termes purement ludiques une image 3D peut vraiment apporter de nouveaux concepts de jeu comparé à un stylet, comparé à un micro,
en fait.
Comparé à machin. Parce que tu ne peux pas interagir directement avec la 3D.
Voilà. Pourquoi tu peux pas interagir ?
Parce que tu peux pas saisir ou
c'est juste. Tu peux pas saisir si c'est tactile.
Non, l'écran est tactile, oui, mais quand t'as une image en 3D, tu peux pas toi toucher cet objet en 3 dimensions vraiment. Imagine un objet qui sort de ton écran, tu peux pas interagir avec. C'est ça le truc que je veux dire. Par contre, effectivement, tu peux interagir sur l'écran tactile.
Mais...
Oui, voilà.
Non, mais c'est un effet graphique. Enfin, bon. C'est un effet graphique en fait. C'est pas un effet. Oui, c'est pas un ajout de gameplay en fait.
Ce qu'il voudrait faire a priori, c'est que c'est le stylet qui vibre. Et du coup, avoir un peu comme la gyroscopie, l'impression quand t'appuies sur l'objet, donc en relief, tu le sens vibrer dans ta main et tu sens genre la pression, etc. Et peut-être que
non, mais ce
en termes
dire,
de
c'est
ressenti,
que le point de contact entre ton stylet et l'écran, il va se faire à un point précis. Mmh. Et tu peux pas toucher ce qui sort ou ce qui rentre de l'écran en fait. C'est bien ça que vous vouliez dire.
Oui, en gros, oui.
Ouais, mais ça peut te donner justement le visuel peut donner de nouvelles expériences de jeu aussi.
Ouais, ah oui, il peut, mais enfin, j'ai du mal à voir autant de potentiel dans ça.
Qu'est-ce qu'a représenté
le
tactile
voilà, que le tactile ou un micro ou un accéléromètre même, tout bête. Mmh. Voilà. Mais bon, on verra.
C'est du eye candy, enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'au cinéma ça cartonne. C'est un truc qui donne une profondeur à l'image, etc. Mais c'est pas fait pour interagir avec directement, pas sous cette forme.
Mmh. Bah faut voir après Nintendo. Hein, et,
ah oui, on sait
Nintendo,
jamais. Hein.
Est peut-être capable d'utiliser vraiment l'image 3D pour inventer des nouveaux jeux.
Mais vu la techno, vu l'écran, etc., je vois pas trop comment parce que. En plus, en repérage dans l'espace, etc. Selon ta position devant l'écran, etc., ça va changer.
Si on voit pas trop comment, on sera bien surpris s'ils le font.
Ouais, c'est clair. Voilà. On verra.
Donc, okay. On verra le 3 effectivement une fois qu'on y aura joué. Voilà. Donc, en gros, pour la 3D, c'est ça. On n'aura pas de 3D sans lunettes avant quelques temps. Par contre, pour la 3D stéréoscopique et tout, c'est déjà dans les magasins en grande partie. Les lunettes devraient débarquer l'année prochaine en masse. Mm-hmm.
Mm-hmm. Donc, on rappelle, voilà. A priori, mise à jour du firmware de la PS3. D'ici juin pour avoir des jeux
rumeurs,
compatibles
sur les
3D.
Télé compatibles
voilà. Exactement,
sachant que Sony sort sa gamme Bravia en même temps avec deux télé 3D ready, etc.
Voilà, Microsoft a bien envie de le faire pour la 360, apparemment ça a l'air peut-être un petit peu plus compliqué, mais en tout cas c'est sûr, ils l'ont annoncé, la prochaine console elle gérera totalement la 3D,
c'est tout con en fait, mais il faut une puissance de calcul suffisante pour pouvoir faire les frames,
tu fais deux fois plus
d'images
que sur un jeu
traditionnel. Et les télé 3D ready, c'est juste qu'elles ont un rafraîchissement encore plus élevé. Alors, on parlait des télé 100 Hz à une époque, rappelez-vous. Bon bah là il faut attendre des 120, etc.
Minimum,
donc c'est faut avoir, alors que avant on se contentait de vachement moins dans les télé LCD.
Ok, allez, on va passer à un élément important, le PC, qui a très longtemps été en avance technologique, il est d'ailleurs encore aujourd'hui, hein. Le retour de force, c'est arrivé sur le PC. La 3D, tu nous en parlais, CAF, ça fait des années et des années que ça existe sur PC.
Bah, la 3D normale et la 3D relief,
voilà.
Pour le coup.
Oui, parce que c'est lui qui a inventé l'accélération 3D aussi.
Mais c'est vrai que les priorités ont changé pas mal ces dernières années, que la puissance n'est plus le seul paramètre qui est pris en compte. Qu'est-ce qui va arriver au PC ? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme innovation majeure en provenance du PC ?
Ça se calme en fait, ça se calme tout bêtement, parce que techniquement, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on est sur une évolution technologique hyper importante. Qu'en ce moment, en fait, on est en train de se rendre compte qu'en finesse de gravure, etc., on atteint les limites physiques de ce qu'on sait faire technologiquement, humainement. On va pas tarder à graver des processeurs, ils font passer des électrons dans des petits circuits, mais avant ça faisait la taille d'un cheveu, maintenant ça va faire à la taille d'un atome. Mmh. En dessous de l'atome, on sait pas bien faire, hein. Voilà, faut être honnête. Donc là, on arrive vraiment à des limites techniques, donc c'est en train de se calmer.
Des limites physiques même.
Des limites physiques, ouais, bien sûr. Et ce qui se passe, c'est qu'on est en train de un petit peu redéployer les priorités. On faisait des cartes graphiques qui consommaient énormément, qui font du bruit, etc. Donc maintenant, on essaye de faire des choses qui soient un petit peu plus éco-friendly, puisqu'en plus, ça tombe bien, c'est à la mode.
Oui, en fait, ils essayent surtout de trouver des nouveaux moyens de vendre
exactement.
La même chose.
C'est-à-dire que maintenant, ils ont un mélange de marketing et techno. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est sur des produits. Par exemple, si on regarde la dernière carte Nvidia, si on compare avec le monde de la console, on reste à vraiment des années d'avance. La PS3 et la 360, ça fait un petit moment qu'elles sont sorties maintenant. Les dernières cartes ATI et Nvidia, y a plus de mémoire que dans une PS3 et une Xbox réunies. C'est de la mémoire mémoire qui va 1000 fois plus vite. Les processeurs eux-mêmes n'ont plus rien à voir. Il y a plus de transistors dans un processeur graphique dans toute une console moderne. Donc on est vraiment
après,
sur les
c'est
technos.
C'est une question d'optimisation, enfin de produits qu'ils utilisent.
Voilà, mais maintenant il faut bien voir qu'un jeu PC ça tourne en 1920 par 1200. Il y a des mecs qui jouent en 2560. Donc voilà, on est en HD. C'est pas les mêmes problématiques et du coup ça permet de tester des nouvelles façons de coder. Les mecs vont faire des textures super jolies dans la version PC que tu auras pas sur Xbox ou sur PS3. Mais en termes d'innovation, en termes de gameplay, en termes de vraie révolution, il y en a plus, il y en a moins. Et j'ai même envie de dire que le PC se simplifie parce qu'en fait, à part la carte graphique, maintenant un PC c'est une carte mère, un gros processeur et la fameuse carte graphique, mais on s'embête plus avec les cartes son comme avant. Il y a plus vraiment on trouve deux cartes rarement maintenant dans un PC, il y a tout sur la carte mère en fait. Et on va vraiment vers une simplification. Le truc c'est qu'en termes de jeu, maintenant tout se porte sur des trucs dont on a déjà parlé dans les podcasts, c'est-à-dire que les innovations du PC viennent plus du côté logiciel. Ça a été le premier à faire vraiment de la distribution avec la dématérialisation, donc ça a été un test quelque part, grandeur nature. Est-ce que les gens sont là, est-ce que ça achète, est-ce que c'est facile, comment on fait pour gérer les produits, donc c'était tous ces trucs autour du logiciel finalement et de la sécurisation qui va avec. On parlera des DRM tout à l'heure, mais c'est un laboratoire aussi, géant en fait, c'est un laboratoire géant pour toutes les nouvelles techno de distribution qu'on retrouve quelques années après.
Mais finalement, il n'y a plus de grosses révolutions, genre l'accélération 3D, tous ces trucs-là.
Il n'y en a pas à l'avenir, enfin, qui sont en train de. Même si elles sont qu'à l'état de papier pour l'instant, il n'y a pas de.
On attendait un truc pour cette année dont on avait parlé, il y a genre 100 podcasts, qui était la fameuse carte graphique super innovante de Intel à base de processeurs qui peut faire du calcul avec un rendu.
C'est
graphique,
l'Arabi.
L'Arabi, c'était Cewiz.
C'était Cewiz qui était venu.
Il essayait de nous expliquer.
Et on n'a rien compris.
Je ne vais pas essayer de vous expliquer. D'ailleurs, mais en gros, c'est un laboratoire pour tester des nouvelles solutions pour faire du. Comme on est aux limites de la taille des processeurs et qu'on n'arrive plus à aller super vite, on met plus de processeurs en fait. Mais donc, c'est le calcul parallèle qui est en jeu.
J'avais cru entendre dire que je sais pas quoi, alors c'était un peu de la science-fiction, mais qu'ils étaient en train de trouver une nouvelle manière de faire les puces 3D, je sais pas quoi, qui allait complètement casser la loi de Moore et on allait arriver dans une autre dimension.
En fait, il y a plein de trucs, il y a plein de pistes en cours. Bon, déjà, l'Arabi, d'un point de vue complètement concret, le projet, il est au garage. Intel a fait genre non, mais là, c'est bon, ok, on va le finir, on revient l'année prochaine. Et en fait, ils ont perdu des dates, donc ils sont clairement plantés. Mais ça reste un marché hyper important, donc ils vont revenir. C'est juste que le produit ne fonctionne pas comme ils voulaient. Derrière, en termes de technique, là, en revanche, c'est tout con. C'est que on est en train de voir comment on va graver les puces, avec quelles nouvelles matières, parce que le silicium, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc en fait, c'est des travaux.
Mais tous les trucs type processeurs neuronaux, tous ces trucs-là, c'est mort ou quoi ?
Enfin, si, il y a toujours des exemples, il y a des ordinateurs quantiques, etc. Ben
ouais, c'est ça.
Mais en fait, pour l'instant, il y a rien qui fonctionne, il y a rien qui est même ne serait-ce que proche d'un truc vaguement commercial.
Parce que
c'est
le
truc de labo.
Pourtant, j'ai lu un truc dans Science et Vie, c'était il y a 10 ans là-dessus, je crois.
J'ai lu le même il y a 25 ans. Voilà.
En fait, le principe, c'est quoi pas. C'est que sur un ordinateur traditionnel, ça marche à l'électricité, c'est soit il y a du courant, soit il y a pas de courant. Et dans les ordinateurs quantiques, t'as toutes les valeurs entre 0 et 1. Quoi. En gros, c'est ça l'histoire.
Oui, alors là, par contre, tu vois, je vais pas rentrer dans le truc.
Eh bien, quelqu'un nous expliquera sur les forums.
En gros, c'est juste super compliqué.
Attendez, excusez-moi de vous interrompre, je crois que j'ai un coup de fil de Cewiz, c'est très important.
Oui.
Allô, Cewiz. Oui, l'Arabi. Non, il y en a plus.
Et franchement, c'est des technos de labo. Le truc du PC, l'avantage, c'est comme c'est une plateforme ouverte, les mecs sortent le dernier truc en date, qu'on a vu débarquer sur PC, c'était les fameuses cartes physiques.
Ah oui, oui.
Qui n'ont absolument pas fonctionné. Mais en revanche, les librairies, elles ont fonctionné parce qu'elles facilitent le travail des développeurs. Et puis après, on s'est aperçu que les processeurs, ils avaient déjà tellement rien à foutre qu'on pouvait bien leur coller des calculs supplémentaires. Et que finalement, faire bouger 50 milliards de bidons dans un Max Payne, si on en fait bouger déjà 15, l'effet graphique, il est suffisant. On n'a pas la peine.
Pas besoin
d'en avoir
plus,
autant que ça. Quoi. Donc, encore une fois, c'est l'aspect labo qui est mis en avant. La techno, elle a été là. Le business, lui, il n'a pas pris la tournure que les mecs qui avaient créé le truc à la base pensaient que ça prendrait. Mais en revanche, on a une itération de cette technologie qui arrive. Et après, ça arrive sur console, puisque les logos sur PS3, sur Xbox 360, les logos physiques ou AVOC, etc., vous les voyez au démarrage. C'est que du soft. Mais c'est des trucs qui ont été inventés avec les technos à la base.
Mais remarque, même Natal à la base, ça a été développé pour les PC.
Ça reste la plateforme la plus simple pour tester une nouvelle technologie, pour voir si ça fonctionne. C'est aussi bête que ça. En revanche, en termes d'avancée, là tout de suite, il n'y en a pas. C'est vraiment, encore une fois, c'est un marché qui est précurseur. c'est grâce à lui qu'on a eu l'accélération 3D. Les jeux en réseau, bah, toute mais la bande, on sait, elle vient de là.
Quelle est la prochaine grande révolution du PC, en fait?
Bah là, justement, on est en train de voir. On sait, en tout cas, on sait que ça ne viendra pas du 5.1. On en a parlé tout à l'heure. La vidéo, je crois qu'ils ont tout donné. La 3D, finalement, stéréoscopique, on l'a déjà eu avant.
C'est déjà
donc,
fait, ok.
C'est un truc. Mais maintenant, en gros, pour l'instant, en termes de jeux vidéo, moi, je vois rien arriver.
Dans les 2-3 prochaines années, il n'y a rien de prévu.
Franchement, c'est un marché qui est en train de
péricliter.
Ah, pas du tout. Non, au contraire, il marche super bien.
Au niveau hardware,
hein?
Au niveau hardware, tu veux dire, de vente de
nouveaux
matos?
Non, le hardware continue. Les ventes de hardware sont encore super bonnes. Elles étaient encore excellentes en 2010. Mais le problème, c'est que le hardware PC, c'est hyper dur de juger. Mais en gros, si on prend juste les ventes, le chiffre d'affaires, par exemple, d'AMD, on sait qu'ils ont fait un carton. Et donc, il y avait une vraie demande pour la partie graphique, pour ATI. C'est la première fois depuis super longtemps qu'ils étaient rentables, donc enfin qu'ils n'ont pas perdu d'argent.
C'est peut-être juste qu'ils ont dépensé moins, pas vendu plus.
Non, c'est les ventes de cartes ATI ont été excellentes. C'est un bon produit au bon moment, typiquement. Donc ATI, je réexplique, c'est AMD a racheté ATI, donc je continue de dire les cartes ATI, mais c'est AMD qui les fabrique et qui les conçoit maintenant puisqu'ils ont tout absorbé. Et c'est un marché qui évolue gentiment, mais il n'y a pas de révolution là tout de suite demain. Non, finalement on va jouer, on va mettre les doigts dans la prise et on contrôlera directement le truc. Ça va être génial.
Et alors juste en termes de redistribution un peu des cartes de cet univers PC vers la console, on sait que Nvidia c'est PS3.
Ouais.
Je veux dire, ATI c'est aussi
ATI, Xbox. C'est Nintendo.
ATI c'est Xbox.
Voilà, et Nintendo ATI, c'est aussi. Xbox et ouais. Nintendo, c'est ça.
Ouais.
Et pour les prochaines générations, ça commence déjà à bruisser un peu de rumeurs. Je crois qu'Nvidia ça s'est pas très bien passé avec la PS3.
C'est la guerre. Nvidia ça se passe rare. Ça s'était pas bien passé avec la première Xbox déjà. Ouais. Ça se passe pas bien avec la PS3 parce que la puce, même quand elle a été mise dans la PS3, en fait, elle était en retard technologiquement.
C'est à cause d'elle le bug là
Si c'est ça, elle est virée. Hein.
Non, c'était pas elle, mais c'est vraiment. C'est un choix technologique que Sony a fait un petit peu à l'arrache, quoi. Et Nvidia, là encore sur son dernier modèle, se fait vachement attaquer parce que là ils viennent de rattraper ATI sur un niveau de performance sur les cartes monoprocesseurs, mais avec une consommation hyper supérieure, un bruit horrible. Tout de suite ils sont super forts en fait sur tout ce qui est puces intégrées. Donc sur les puces pour les netbooks par exemple, sur les puces les nouvelles puces pour portable,
des trucs dont on a rien à foutre pour le jeu vidéo en fait.
Si t'es obligé de jouer sur portable, si tu t'appelles Mimic, tu vas être content que les nouveaux MacBooks aient une meilleure puce graphique, mais sinon c'est vrai que
c'est une puce Nvidia dans les Mac.
Ouais. En fait il y a deux puces dans les derniers dans beaucoup de portables.
Ça doit être génial les négociations entre Apple et Nvidia. Ça doit être fantastique.
Là ça doit être un peu tendu, mais effectivement pour l'instant en termes de qualité de marque, on va dire que la technologie de Nvidia a un gros potentiel pour monter. C'est un peu comme le sel, tu vois, ils ont un gros potentiel pour être super bien dans quelques années. ATI a un truc qui fonctionne très très bien avec des ingés quand même derrière pour l'avenir, mais là ils ont un produit qui est vraiment le produit idéal au moment idéal. Ils ont un bon timing sur l'ensemble, donc forcément en termes de par contre pour le monsieur lambda, super, ton jeu va plus vite, c'est plus joli, tu peux mettre les détails à fond, mais on n'est plus dans la révolution technologique
parce qu'on a enfin des PC qui font tourner Crysis avec tout à fond en super grosse résolution
et c'est un peu le bonheur.
Et Crysis 2 il va encore
il y aura moins de trucs. Crysis 2 je suis sûr qu'il va mieux tourner vu qu'il est adapté sur console. Il va finalement être vachement moins gourmand, ils sont un peu calmés les mecs de Crytek, enfin, en tout cas j'espère. Mais déjà les derniers FPS, tout ce qui est Modern Warfare 2, tout ce qui est l'excellent, que dis-je, le sublime Bad Company 2, avec tous ces putains de bugs, virez-moi tous les mecs qui ont fait l'interface multiplayer, sinon le jeu est génial. Mais ça par exemple, pour tout pouvoir mettre à fond avec une grosse résolution, il faut une carte graphique qui coûte quand même la bagatelle d'une PS3 avec accessoires, donc ça coûte plus de 300€ une carte de grosse qualité sur PC.
Une carte de grosse qualité,
c'est parce que je voulais dire.
C'est parce que c'est
sorti comme ça.
Mais ça reste encore donc un loisir. Le jeu vidéo sur PC, ça reste encore un loisir cher. Quoi.
C'est un loisir cher.
Enfin, sauf que t'es pas obligé d'avoir du top end pour faire tourner tous les jeux PC qui existent.
C'est pour ça en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle techno qui sort sur PC en carte graphique, t'as une puce en fait qui est l'étalon, qui est un peu, c'est moi qui est la plus grosse, voilà, en termes de marketing. Et derrière, cette puce est déclinée avec des castrées, qui sont justement de moins en moins chères et qui consomment de moins en moins. Le but du jeu, c'est de pouvoir les caser dans les portables et les caser dans des cartes à 100€, voire moins. Donc, à ce petit jeu-là, et les deux sont super forts, mais c'est vrai que si tu veux le top du top sur PC, faut être un bourgeois avec le loft, donc tu pourras jouer sur Natal dans ton gros salon, si tu veux. Mais non, c'est vrai qu'il y a pour l'instant, il n'y a pas de révolution.
Ok. Ok. Alors néanmoins, il y a une révolution qui pointe le bout de son nez. C'est le cloud computing. Alors déjà, Kaf, tu vas nous expliquer un petit peu, nous resituer un petit peu ce que c'est pour ceux qui auraient été un peu paumés dans l'histoire. Et puis le fantasme de la console unique, le OnLive qui arrive, le fait de pouvoir jouer en dématérialisé, plus besoin d'avoir ni de PC ni de console, rien, ou, en tout cas pour le jeu.
À 300 euros.
Voilà, on a son petit truc, sa mini console qu'on met sous son écran, bim, et les jeux sont
c'est
plus chez soi.
Micro console même.
Micro console qu'elle s'appelle, qui même si elle ne sortira pas, voilà, ouais. J'ai eu raison. Au lancement, le lancement qui aura lieu juste à la fin de l'E3, hein, à la mi-juin aux États-Unis en tout cas dans
uniquement,
un premier temps, avec un abonnement mensuel vers une quinzaine de dollars.
On va enfin savoir si ça marche pour de vrai.
Exactement.
Pour l'instant, sur les forums, ça n'a pas l'air génial.
Tu vas nous en parler juste après, ça sera intéressant. Sûr. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cloud computing ? On l'entend parler de plus en plus et apparemment, ça a des...
Oh, c'est un concept super vieux, c'est génial, c'est du marketing.
En fait, c'est l'aube de l'informatique qui a commencé déjà avec
voilà.
ça.
Voilà, en fait, dans les années 60, on avait un truc qui s'appelait les mainframes. On n'avait pas, la micro-informatique n'était même pas inventée. On avait des gros ordinateurs qui prenaient des étages, voire des buildings complets. Mmh. Et les gens travaillaient avec des
terminaux.
Des consoles qui étaient connectées sur ce truc-là. Pas des consoles de jeu, évidemment, on s'est compris. Mmh. Et le but du jeu, c'était de pouvoir utiliser la puissance de calcul de l'énorme ordinateur qui était planqué dans un coin du bâtiment. Le cloud computing, finalement, c'est juste l'application d'exactement de la même théorie avec l'utilisation des espaces de stockage et de calcul d'ordinateurs répartis et accessibles par Internet qu'on n'identifie pas clairement sous le nom de serveur, etc. C'est un truc un peu éthéré, on ne veut pas trop s'en occuper, on veut juste que ça marche. Et un exemple très concret, je ne sais pas, ça va être Google Doc. Google Doc, quelque part, c'est du cloud computing. Donc, c'est même plus que ça. C'est un truc qu'on appelle du software as service. Donc, c'est un logiciel qui utilise c'est vraiment en fait une notion qui existe en informatique depuis très longtemps. Tu as des mecs comme Larry Ellison qui est le PDG d'Oracle, qui est une boîte qui fait des bases de données, qui est multimilliardaire. Lui, il parle de ça depuis les années 80-90.
Mais là, ça risque de se généraliser totalement parce qu'on voit justement, t'en parles, Google. A priori, leur OS, le prochain OS, c'est vraiment ça. Hein, c'est dématérialiser le PC, avoir une fenêtre que tu ouvres sur n'importe quel ordinateur et puis avoir ton OS, ton ordinateur, n'importe où.
Le cloud computing, en fait, ça offre un truc très con, c'est du service. Et c'est du service utile. Je prends un exemple très con, c'est tes sauvegardes, ton PC crash, tu as perdu tes sauvegardes. Si ton truc, tout est en cloud computing, tes sauvegardes, ton PC plante, mais tes sauvegardes sont sauvegardées sur le cloud, dans le nuage, elles sont sur Internet, donc tu les as pas perdues. C'est une valeur ajoutée.
Service. Il y a un orage.
C'est leur problème. C'est là, ils se démerdent. Ils ont des backups, les serveurs sont redondants.
C'est pas le gros problème.
En fait, c'est un peu.
C'est la peur. C'est la peur de cette histoire, mais en fait.
C'est beaucoup plus sûr que le. En fait, c'est un peu. C'est les mecs qui ont peur de voyager en avion, par exemple.
Ouais.
Mais ils prennent la voiture parce que c'est plus sûr. Tu regardes les stats, il y a un petit problème, c'est juste l'inverse. Là, c'est pareil. T'as beaucoup plus de chances de perdre tes données sur ton PC perso à toi, chez toi.
Mais pourquoi ?
Parce que les disques durs, c'est un truc qui tourne à...
Parce que toi, t'as pas des systèmes avec des centaines de millions de dollars derrière qui s'occupent de backuper tes données régulièrement, de faire attention que surtout tu ne perds pas les données du client, que si jamais il y a le moindre truc, parce que évidemment dans
imagine
ces...
cette boîte de centaines de millions machin, ça dépose
le bilan.
Il se passe quoi de toutes tes données, toute ta vie,
et bien dans une éventualité comme celle-ci, déjà à mon avis, les boîtes qui sont en mesure de proposer des services basés sur du cloud computing, c'est pas des épiceries locales quoi. Et dans ces cas-là, elles seront rachetées et réincorporées à d'autres sociétés financièrement plus solides.
Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que en ce moment on voit plein de start-up qui font des services à base de cloud computing. Les start-up qui se lancent avec 2 francs 6 sous ou même quelques millions de dollars, ils sont pas en train de monter des centres serveurs, des data centers de la mort avec énormément de trucs. Les trois quarts utilisent les services d'une petite PME qui s'appelle Amazon par exemple. Amazon a un service de cloud computing. Toi tu viens d'avoir une idée de stockage de fichiers révolutionnaires, etc. Au lieu d'aller acheter des serveurs, tu montes ta petite boîte avec tes 4 potes et tu vas louer les serveurs d'Amazon.
Exactement comme Gameblog en fait. On n'a pas nos propres serveurs, dans les bureaux. On les loue, on les paye à quelqu'un dont c'est le métier.
Et avec le cloud computing, c'est juste la même chose, fois 100, fois 100 millions. Ça dépend de l'ampleur du business derrière.
Alors, en application, jeux vidéo, qu'est-ce que ça peut donner ?
C'est du service, donc c'est ce que je disais. Ça peut être vraiment, si on parle du niveau zéro du cloud computing, on va parler de stockage finalement, du stockage délocalisé. Donc ça va être les sauvegardes de jeux. Ça va être peut-être même ton jeu à récupérer sur ta bécane, un peu comme du Steam finalement. Steam, c'est du cloud computing déjà. La première application un peu cloud de Steam, c'est d'avoir les configurations de tous tes jeux stockées en ligne. T'es en train de jouer à Counter-Strike, tu vas jouer chez un pote. T'as une configuration hyper relou,
De touches, par exemple. Tu n'as pas besoin de reconfigurer tes touches.
Voilà, tes touches, là, le réglage de ta souris, etc.
Oui, parce que sur PC, on
voilà,
configure
en fait,
nos
tu te logs dans Steam. Tu te logs sur Steam.
Non, ça me fait marrer par rapport au PS Move et à la Wiimote, si tu veux. C'est, là, c'est le décalage entre les deux qui me fait marrer.
T'as un putain de décalage, ça, c'est clair. Mais en revanche, bah, là, tu te connectes, tu te mets ton nom de code, etc. Ça va te dire, voulez-vous récupérer votre configuration? Oui, merci, au revoir, c'est fini, tu vois. T'as, c'est aussi simple que de te connecter sur Facebook, etc. Et tout ça sera transparent et automatique très, très bientôt.
Et puis, au-delà du stockage de données, de sauvegarde, de machin, est-ce que ça peut être de la puissance après. Aussi
Bien sûr.
Bien sûr.
En fait,
c'est le principe d'OnLive finalement.
C'est OnLive, OnLive, bah, c'est ça. Donc c'est pour ceux qui se rappellent pas, c'était le principe d'avoir des jeux vidéo directement hébergés sur des serveurs distants. Et en fait, ils envoient juste l'image quelque part. Je simplifie.
C'est de la VOD du jeu vidéo. Quoi.
C'est la VOD c'est du ça. Jeu vidéo complètement. C'est ça. C'est exactement ça.
T'as pas à te préoccuper de mettre ta machine à jour. T'auras toujours le
la puissance graphique tu t'en fous. Voilà, c'est les serveurs qui se débrouillent pour être à niveau. Ouais. T'as pas à te soucier de savoir si
de mettre à jour ton jeu.
Disque.
On perd Julo. Je vous annonce. Vous le voyez, ouais. Il s'endort.
Tout va bien.
T'as pas à t'emmerder avec les DRM.
Ouais.
Parce que de toute façon, tout est verrouillé. Et le cloud computing, quelque part, on sait que ça marche et on a l'habitude depuis un moment. Parce que si on prend un exemple à deux balles, World of Warcraft, par extension, c'est du cloud computing, si tu veux.
Ouais, mais t'as encore une grosse partie client, quoi.
Mais t'as une grosse partie client, mais je veux dire, parlais tout à l'heure de la sécurisation des données, etc.
Le nouveau BattleNet, donc, qui a été récemment inauguré et qui est accessible aujourd'hui à tous.
BattleNet, c'est Warcraft ?
BattleNet, c'est le service de jeux en ligne de Blizzard, qui existe depuis très très longtemps. Hein. C'est d'ailleurs un des tout premiers.
StarCraft.
Voilà. Il a toujours été gratuit, d'ailleurs, ce qui est quand même notable.
Enfin, tu payes, hein, tous les mois.
Non,
pas sur BattleNet.
Sur World of Warcraft, oui, mais oui. BattleNet, non. C'est-à-dire, depuis que, par exemple, à l'époque, quand tu jouais à Warcraft 2 sur BattleNet ou StarCraft ou machin, tu payais zéro. Tu avais acheté ton jeu et basta, d'accord, et tu pouvais jouer en ligne gratuitement autant de fois que tu veux avec qui tu voulais.
C'est toujours le cas.
C'est toujours le cas. Oui. Effectivement, la seule exception, c'est World of Warcraft, où là, par contre, tu payes un abonnement. Mais c'est
pas la même infrastructure derrière.
Ouais, c'est pas tout à fait pareil. T'as pas de Game Master à payer quand tu
joues. T'as pas 50 milliards de serveurs.
Bref. Donc, ça mise à part, sur BattleNet, par exemple, déjà, voilà, quand t'achètes un jeu Blizzard, tu l'enregistres sur ton compte BattleNet. C'est-à-dire, ta clé d'habitude que tu utilises pour installer ton jeu sur ton PC, tu l'utilises toujours pour l'installer. Mais tu la rentres sur ton service. Et si tu paumes ton CD, si tu le pètes, si machin, ta machine elle plante, si peu importe, tu te logs sur ton BattleNet, tu fais je veux télécharger mon jeu, tu cliques le lien, tu télécharges le jeu, tu l'installes et basta.
Ça va même plus loin, c'est-à-dire que si tu veux finalement, t'es en France, mais tu préfères avoir le jeu en anglais, bah tu dis bah je vais aller télécharger le jeu en anglais directement sur le truc.
Voilà, tu prends la version que tu veux.
Encore une fois, c'est du service.
Et alors justement, on en a parlé très longuement il y a peu plus d'un an de OnLive lorsque ça avait été annoncé. Mm-hmm. Bah, c'était à la précédente GDC, hein, ouais. GDC 2009.
Et on en a reparlé à l'occasion du podcast sur la dématérialisation aussi.
Exactement. Et puis là, ça arrive. Hein. Maintenant, c'est dans 2 mois aux États-Unis. Et donc, Kaf, toi, tu disais... Parce qu'il y a déjà des gens... Donc, il y a eu un bêta-test aux États-Unis. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui?
Bah, en fait, ça fait 6 mois qu'ils ont bien du mal à verrouiller leur NDA. Mm. Donc, il y a quand même pas mal de retours sur les forums. Et en gros, ce qui se dit, c'est que le lag est quand même super perceptible sur les jeux, bah, typiquement les FPS, donc un Crysis. Où il y a quand même vraiment une perception de latence qui est assez importante et en fonction de la distance avec le serveur c'est amoindri. Mmh. Mais sur les jeux très très rapides c'est jamais parfait.
Même quand t'es au pied du serveur.
Apparemment, il y avait des mecs qui étaient vraiment à quelques kilomètres et ils trouvaient pas ça génial, quoi.
D'accord.
Donc après, il y a des gars qui sont du joueur un peu casual, un peu tranquille, qui se dit ouais, non, moi pour essayer Crysis vite fait, ça me dérange pas trop.
Quand on dit genre du lag, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'être en 60 images secondes, on passe à 30.
Non, c'est pas seulement c'est pas l'animation, non,
c'est
le temps
que tu bouges ta souris et que voilà, du coup tu le vois répercuter. Ouais.
Exactement comme sur Natal.
Okay.
C'est exactement le même problème. C'est-à-dire que t'as, entre le moment où tu donnes
donc,
la commande.
En termes de gameplay, c'est gênant quand même.
C'est super chiant pour plein de gameplay. Donc, c'est-à-dire que si tu lances ta commande et que le truc qui se passe à l'écran réagit quelques fractions de seconde après.
Pour un FPS,
c'est vraiment
vrai,
chiant.
Tu peux être déjà mort, mais ne pas le savoir encore.
Voilà. C'est juste insupportable. T'as des jeux beaucoup plus paisibles où ça va bien se passer. Mais sur tous les jeux rapides d'action, t'imagines un Killzone 12 en live, il faudra que tout le monde soit en fibre optique. Quoi, parce que là,
mais ça, c'est un souci, pas possible.
Ah, c'est un vrai souci. Puisque c'est une pierre d'achoppement. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le truc qui va faire que les gens
ça marche pas, ouais.
Bah oui, ça veut dire que les connexions sont pas suffisantes.
Bah c'est un même souci sur Natal, c'est-à-dire que si Natal arrivait pas à résoudre ce genre de problème sur la version finale, bah ça serait le même problème qui commercialement serait désastreux. Ouais. Donc là sur le OnLive pour l'instant, bah les avis sont très partagés.
Il y a des réactions des responsables d'OnLive, bah, c'est normal parce qu'on n'est pas encore tout à fait prêt.
Les responsables d'OnLive sont hyper ouverts. Finalement, parce qu'ils ont vraiment été super open pour expliquer la techno, comment ça marche, etc.
Moi, je reviens toujours à cette vidéo de 45 minutes où
qui est fantastique.
Merde, comment il s'appelle déjà ? J'ai oublié son nom.
Je ne me rappelle pas de son nom. Mais...
Le patron d'OnLive, en gros, explique à des étudiants c'est quoi OnLive, comment ça marche, c'est quoi notre business model, etc. Le mec, il balance tout, quoi.
Il explique tout de A à Z. Et technologiquement, c'est très très fort. C'est-à-dire que ça part de vraiment de très très bonnes idées. Les mecs ont vraiment eu des super idées. En revanche, derrière, les
dans
mecs,
la réalité
dans la réalité vraie des connexions internet du vrai monde, surtout aux États-Unis, où mine de rien, c'est
pas on le rappelle souvent effectivement, mais là-bas, c'est pas la teuf à la fibre optique. Quoi.
Voilà quoi. C'est-à-dire que si OnLive était lancé demain en Finlande ou en Corée, je te dirais, ouais, ok.
Même en France, on a des bonnes connexions en France.
Ouais, mais on n'a pas de très très haut débit en fait. Mais
aussi, t'as la fibre.
Ouais, mais par rapport au taux de connexion, par exemple, des Coréens ou de la Nouvelle-Zélande, qui a des villes complètes déjà fibrées, etc.
Mais genre avec la fibre, ça marche très bien.
Bah parce que tu limites, t'envoies plus de données plus vite. Donc ça peut être que mieux. Ça peut être que mieux.
Mais que mieux ou bien?
Normalement, ça peut être bien.
En gros, ça veut dire que ça se trouve dans OnLive, en gros, c'est 2010, c'est chaud, mais 2012, tout va bien quoi.
Bah, y a de fortes chances pour que ça se passe comme ça en fait. Hein.
Ouais, l'idée, moi franchement, je reste persuadé que l'idée est bonne, mais la techno me paraît viable. En revanche, je pense pas du tout que les infrastructures soient prêtes déjà. Ouais.
Mais ça, c'est important parce qu'il y a un autre truc en fait, c'est que ça se trouve c'est pas OnLive le responsable des problèmes d'OnLive. Ça se trouve c'est ceux qui s'occupent de leur ferme de serveurs qui font peut-être pas bien le travail ou.
Bah c'est un peu vouloir lancer l'iPhone 3GS alors qu'on est encore au Bebop, si tu veux. On n'a pas les bonnes antennes quoi.
Ah, oui.
C'est un peu ça le problème.
Pour aller en 3G, ça va être chaud hein, quand même. À l'époque du Bebop. Tiens, un frigo. Tiens, c'est marrant ça.
Ça va être un peu compliqué.
Attends, il faut que je trouve le petit logo vert. Oui. Il est où?
Je peux pas m'éloigner
encore un kilomètre. Attends.
Donc c'est pour moi ça reste le problème. Il reste là la techno elle-même. En tout cas, vu comme elle expliquait, je pense qu'elle peut fonctionner. Mmh. Et encore une fois, le service pour l'utilisateur lambda, il est génial parce que là, ça veut dire qu'effectivement, t'as plus à te faire chier. Les gens sont blindés, ils ont plus du tout la réticence de l'abonnement. Donc si tu leur dis 15 euros et t'as plus du tout besoin de t'emmerder avec le reste, tu vas être super content quoi. Mais sinon pour le lancement, voilà, en 2010 après l'E3,
c'est faux.
Moi j'attends de voir, c'est comme Natal, j'attends de voir le nom de Natal, on a oublié d'en parler, mais Natal ça s'appellera pas Natal, et moi j'ai hâte de
moi aussi j'aimerais bien
Natal, on rappelle c'est une ville brésilienne qui leur a inspiré ce nom.
Il y a juste un autre truc aussi dont on n'a pas parlé très rapidement aussi, mais c'est les jeux dans les navigateurs internet. Pour le moment on se contente d'un petit peu grosso modo de Flash pour faire des jeux. Il est clair que tôt ou tard t'as des choses comme Quake Live qui en sont déjà les précurseurs d'ailleurs. Tu vas avoir des vrais jeux en 3D dans les navigateurs, et ça mine de rien c'est aussi une avancée technologique parce que t'as pas vraiment besoin forcément d'un support énorme avec une grosse machine derrière et tout, et tu peux y jouer de partout. Donc ça sera aussi une forme
sans
de
sans installation de clients et tout ça.
Si, il y a un petit plugin pour Quake Live, mais ça va très vite.
Ah, pour Quake Live c'est un plugin, un plugin Internet Explorer.
Mais moi que demain non.
Je reste, c'est des avancées, ça sera intéressant de voir ce que ça va donner. Pour l'instant c'est assez bancal parce que en gros c'est ah oui alors ça marche dans un navigateur sauf si tu as tel navigateur. Donc en gros faut avoir la dernière version de Firefox ou de Chrome machin. Faut avoir certains plugins installés, donc c'est pas encore super
friendly.
C'est-à-dire que c'est pas Farmville, tu vois.
Ça viendra.
Mais ça va venir et c'est beaucoup plus intéressant.
85 millions de joueurs sur Farmville.
Tu peux pas lutter contre Farmville.
C'est apparemment, c'est 500 000 $ par jour.
Ouais.
Et c'est n'importe quoi.
Non, mais c'est, c'est le seul truc qui explique la vie à Blizzard en ce moment, je pense, en termes de rentabilité. C'est
500 000 $
et c'est
par
un
jour.
Jeu de merde, hein, je vous le dis.
C'est hallucinant.
Bref, c'est un autre débat.
C'est ça. Et d'ailleurs, pour conclure ce podcast, on va revenir rapidement, mais c'est important, sur les DRM, les fameux Digital Right Management, qui pourrissent la vie de certains, mais qui à la fois.
Ça casse les pieds de tout le monde. Hein. Il y a toujours un moment où c'est emmerdant.
Ouais, mais à la fois, ça sauve aussi, en tout cas, c'est fait pour protéger des productions sur PC. Qui sont mis quand même mal à partie. Hein. Des exemples très concrets. Hein. Le dernier Far Cry d'Ubisoft, ils ont bloqué. Ils en ont vendu, je crois, 1 million et quelques. Il y a 2,5 millions de personnes qui sont en train d'y jouer. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même plus de la moitié des gens qui donc jouent à des versions qu'ils n'ont pas achetées. Donc c'est quand même un vrai problème. Et forcément, les éditeurs, et plus ça va aller, plus ils vont en avoir marre. Hein. Donc soit ils font plus de jeux PC, soit ils vont foutre des DRM.
Et donc le vrai problème des DRM, c'est que finalement, il n'y a pas, en tous les cas, moi je n'en connais pas, de nouvelles technologies prévues pour des DRM qui soient pas chiantes pour l'utilisateur et efficaces pour les éditeurs.
Mais en fait, il y en a une qui existe sur les DRM, les jeux pas piratés sur PC, c'est les MMO. Donc en fait, c'est quand tu as besoin de te connecter sur un serveur pour vraiment jouer. En fait, Ubisoft a pris avec son dernier DRM ce genre de route. Et ça fonctionne parce que Prince of Persia, Assassin's Creed et ouais. Splinter Cell en bénéficient. Et Assassin's Creed 2, pardon, et c'est un jeu qui n'a pas été piraté pendant hyper longtemps après le lancement. Donc bah, ça leur a permis d'en vendre aux gens qui disaient j'attends les versions pirates, c'est pas grave. Mm. Bon, finalement, ils ont fini par craquer, ils l'ont acheté sur Steam en boîte, whatever. Mm. Mais surtout derrière, c'est que quand la version pirate est sortie, pour installer, j'ai regardé comment il faut faire pour installer la version pirate de Assassin's Creed 2, j'ai rigolé. Faut un DUT en informatique.
tant mieux.
J'exagère, mais ils ont vraiment fait un système qui est hyper chiant. Après, le problème, c'est qu'il y a un retour de manivelle.
C'est qu'il est chiant aussi pour ceux qui l'ont acheté.
Il est chiant sans être chiant. C'est-à-dire que c'est un vrai faux débat. C'est normal de s'offusquer du truc. C'est-à-dire que tu peux pas jouer offline. Et tu perds ta connexion si tu perds. T'es en train de jouer, ta Freebox reboot ou tout machin, ta sauvegarde se fera pas. C'est juste insupportable alors que t'as payé le jeu et que tu te retrouves à pas avoir ta sauvegarde directement.
Oui, puis alors c'est pas comme si les déconnexions intempestives chez Orange par exemple
au hasard c'était
pas
t'inquiète hein, chez Numéricable par exemple.
Oui, mais moi c'est par contre la télé c'est vraiment de la merde et j'en profite pour lancer un grand appel.
Mais moi la télé c'est vraiment plus cher que toi.
C'est vrai, mais en même temps ton décodeur quand tu changes de chaîne il met pas 15 secondes.
Ah là là,
faut que je trouve un autre
truc. Je suis content chez Free.
Oui, mais l'interface elle est ringarde.
Attends, chez Free, j'ai été voir un match de foot chez un pote, il dit chez Free, il y a pas de problème.
C'était
l'horreur.
Chez Free, c'est un autre débat, mais c'est pareil. Si la connexion entre les deux box c'est pas bien fait, c'est une horreur.
Ah ouais, non, mais c'est juste pour le
chez
match
Faskill qui travaille aussi sur Gameblog.fr. J'ai vu la télé chez lui et j'ai cru que sa télé était cassée. c'est pour vous donner une idée que ouais, non, tout va bien au niveau de l'infrastructure internet dans tous les pays du monde. Hein. Mm-hmm. Mais du coup, pour revenir sur les DRM, bah, c'est un système contraignant, mais il a le mérite de fonctionner en tout cas. C'est-à-dire que historiquement, je sais pas encore, rappelez-vous les BioShock, etc. Mm. Ils font chier tout le monde et en plus le jeu il est piraté 15 jours avant la sortie. Mmh. Là, ça n'a pas été le cas. Mais le concept de marier DRM et cloud computing, par exemple, pour offrir un service supplémentaire aux gens, je trouve pas ça complètement débile. Je trouve que la direction est bonne. Maintenant, il faut qu'ils se débrouillent pour arriver à sécuriser le truc quand la connexion est perdue. Mais en tout cas, c'est un vrai plus.
Mais en fait, il faut qu'ils arrivent à redonner, un peu comme ce qui s'est passé avec la musique, iTunes et tout ça, à redonner l'habitude aux gens grâce à des services, des choses voilà, bien faites.
À la facilité et à la facilité, à l'exploitation de la puissance de la flemme.
À redonner l'habitude aux gens d'acheter et ensuite les libérer des DRM. Parce que finalement, iTunes, aujourd'hui, ils ont libéré les gens des DRM. Aujourd'hui, tu peux faire, quand t'achètes, putain, t'achètes ton MP3 quand même, t'as envie de le mettre dans ton lecteur bidule ou dans ta chaîne machin et ou de le prêter ou de l'emmener à une soirée chez un pote, etc. Tu dois quand même avoir le droit de le faire. Bah, maintenant, t'as le droit. Et bah, avec les jeux,
non. Si je puis me permettre, non.
Mais sûr que
ça n'a rien à voir.
Tout ce que t'achètes comme
non.
MP3,
non.
Il est libéré des DRM.
Va balancer ta musique sur ton iPhone chez ton pote.
Non, attention. Le sortir de ton iPhone pour le mettre dans un autre iPhone, machin, etc. Je parle pas de ça. J'ai le morceau, le MP3 que t'as acheté, tu peux le foutre sur un CD si t'as envie. Tu peux, machin. Ouais. Il est pas limité à un ordinateur.
Ouais, mais
libéré des DRM.
Quand je vais chez un pote, je fais pas genre. Tiens, et si je me gravais un CD avec quelle musique ? Tiens donc, j'ai mon
iPhone
dans la main,
tu vois. Enfin, c'est So 90s.
Je veux juste le
mettre dans une clé USB ou ce que tu veux. Bah, enfin, c'est pas compliqué.
Non, mais le royaume du prévoir tout n'est pas forcément très.
Mais si tu viens avec ton iPod, tu branches un câble, un jack et c'est réglé.
Bah, pas forcément.
Enfin, cela dit, ils ont gardé
le câble jack
les 5
avec Par contre, tu le pluggerais directement sur iTunes, normal, c'est ma musique, tu vois. Pas pouvoir la mettre dans son PC, je veux bien, mais au moins pouvoir l'écouter. Bah, tu peux pas.
Ouais, ça c'est le cas très particulier de l'iPod. Certes, il est répandu, hein, mais. Ouais.
Et c'est pour ça que des services sans DRM, mais avec abonnement comme Spotify, c'est quelque part l'avenir, même si ça reste cher, etc. Mais là, il y a encore une fois.
Moi, on regarde avec des yeux ronds quand je dis que je paye Spotify. Ouais,
hein. Moi, je l'ai payé aussi. Et c'est juste qu'en termes de service, encore une fois, si la bibliothèque était super.
Ah oui,
remplie,
oui, bien sûr.
Le service est juste génial.
Oui.
C'est-à-dire que là, t'as vraiment un truc qui simplifie. Ça, c'est plus rapide que de pirater un putain de MP3.
Bah
donc
oui.
Voilà quoi. C'est hyper important. Ouais,
ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est cher. Et quand, oui, parce que là, ils sont en train de parler hors micro, hors antenne.
Hors antenne, off.
Voilà, on sait même pas de quoi d'ailleurs.
Et quoi il me fait
donné,
quoi,
hey, c'est sûr.
Bon.
On a les noms des joueurs de l'équipe de France qui. Mais c'est un débat.
Il est temps de clore ce podcast.
C'est vrai.
Non, mais alors, ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que les éditeurs, après avoir été assez véhéments avec les pirates, sont en tout cas clairement conscients, ils admettent en tout cas que leurs méthodes ne sont pas parfaites.
Non.
Il y a un dialogue qui est en train de s'instaurer un peu plus quand même.
Bah, ils ont intérêt à dialoguer avec leurs clients quand
c'est
même.
C'est le mot que je martèle depuis le début, tout passera par les services. Mmh. C'est-à-dire que si bien tu sûr. Es capable de d'offrir quelque chose avec une vraie valeur ajoutée, une simplification d'utilisation au client,
iTunes.
Il sera content de payer. Et en, mais iTunes, c'est déjà dépassé, si tu veux.
Ouais,
pour moi,
ça, c'est un bon exemple.
C'est Spotify derrière, avec genre, j'ai envie d'écouter ça,
ouais,
je télécharge un
Spotify,
truc. Sur
Spotify, tu t'apprêtes de Chili Peppers, par exemple, tu peux pas les écouter.
Mais je sais super, c'est pour ça que j'ai arrêté de payer, mec. Alors, je suis super au courant, t'inquiète.
Rien que pour les Red Hot, attends.
Rien que pour les Red Hot, ça m'a énervé. Parce qu'en fait, ils ont pas les droits après les, les albums, les premiers albums des années 80.
Il y a plein de trous. Le problème de Spotify, c'est qu'il y a plein de trous dans la bibliothèque. Il y a des trucs majeurs que tu
finalement, dans 10 heures, il y a plus de.
Oui, non, mais ça n'a rien à voir avec la techno, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on s'en fout, ça. Oui, ok, ils ont un problème de droit, d'accès, etc. Ils ont un vrai.
10 euros l'abonnement.
Oui, non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que le service, encore une fois, le software derrière, l'idée, ça fonctionne de la mort. Et ça fonctionne sur iPhone.
C'est ça, ça marche tellement bien que sur iPhone en 3G, tu balances le truc, t'attends, allez. Une seconde et demie qui a un petit peu de buffer, et puis après, pouf, t'écoutes ta musique avec une qualité similaire à celle d'un MP3 de base.
Et si tu vas prendre l'avion et que t'as prévu le coup, boum, tu télécharges tout, sur ta, tu prends tes playlists en offline, ça va les télécharger pendant que t'es en Wi-Fi, etc. C'est encore une fois du service. Et là, par exemple, pour le truc d'Assassin's Creed 2, bah, ils sont à cheval entre les deux, c'est-à-dire qu'ils verrouillent leurs produits, mais il y a encore trop de contraintes pour les utilisateurs qui se disent bah ouais, mais moi ma connexion internet elle est pourrie, moi je joue en ce moment.
Puis tous les gens qui ont juste pas le net. Tous les gens qui ont juste pas le net.
Ouais, alors c'est évident, mais sur ce type de produit ça devient de moins en moins un vrai problème.
Ouais, moi je trouve quand même.
Ouais, mais quand t'as une coupure.
Non, mais le problème c'est pas ça, c'est que en fait nous on est bon, voilà, t'es installé, etc., tout va bien. Moi j'ai des potes, voilà, ils sont en mission, ils sont délocalisés pendant 5 jours de la semaine, ils sont pas chez eux parce qu'ils
avaient qu'à pas faire agent secret, c'est tout.
On leur dit tiens, tu pars avec ton portable, t'es super content, t'as le portable de la boîte, il est super bien. Le mec il dit waouh, génial, je vais pouvoir jouer le soir, en plus je connais personne.
Bah, bravo,
de merde.
Bravo les travailleurs.
Il peut pas jouer le soir parce que bah il a pas de connexion internet et le wifi du voisin est tout pourri, donc il peut pas avoir ses sauvegardes. C'est très con, mais voilà, c'est des, il y a plein de cas qui font auxquels on pense pas quand on est peinard chez soi, mais il y a plein de cas qui font que c'est limitatif. Donc quelle est la, est-ce qu'on doit laisser les gens pirater? Et si on compte sur le bon vouloir, il y a les apôtres du faut enlever les DRM, ça sert à rien et tout. Vas-y, mets toutes les Ferrari dehors gratuit, tu vas voir combien il t'en reste à la fin de la journée, tu vois. Donc
bah, en même temps, une fois que tout le monde en aura,
la question voilà. C'est est-ce qu'il y a d'autres pistes, d'autres façons de faire?
Bah, encore une fois, c'est arriver à associer un service que les gens perçoivent une valeur ajoutée pour les MMO.
Qu'est-ce que tu peux faire autour du jeu
à ta vie? Potentiellement.
Non, mais par exemple, il y a des gens qui jouent à World of Warcraft sur des serveurs pirates pour pas payer l'abonnement, etc.
Ouais, mais bizarre, sauf que c'est de la merde.
S'en fout, parce que déjà, c'est moins bien que l'expérience officielle. Et derrière, World of Warcraft en officiel, personne ne peut le pirater. Personne. Et il faut arriver à trouver à chaque fois il faut que le jeu soit suffisamment bien et suffisamment intelligemment lié à ses protections, entre guillemets. Pour que ça se passe bien. Modern Warfare 2, les mecs achètent le jeu parce que super, ils ont piraté le solo, mais après ils veulent jouer en multi avec leurs potes, tu peux pas. Battlefield, pareil. Tous les FPS modernes, pourquoi ils sont pas piratés? Pourquoi ils atteignent des scores de vente aussi gros, même sur PC, tu vois, en dehors des consoles? C'est parce que tu peux pas y jouer en pirate, en multijoueur.
Ça, c'est intéressant, ça.
Et c'est
ce qui expliquerait aussi l'explosion du multi dans des expériences
bien
qui
sûr.
Jusqu'à présent n'étaient que solo.
Bien sûr.
C'est sûr que déjà la promesse est intéressante et les joueurs aiment ça, mais effectivement en plus ça a l'avantage de permettre aux éditeurs de vendre des jeux, donc c'est déjà quand même un gros avantage.
Tu peux pirater que le solo, donc c'est hyper limitatif. Donc les mecs ils se disent génial, ouais, mais moi je veux jouer en multi avec mes potes, ok, v'là ta thune. Sur PC en ce moment il n'y a que ça qui fonctionne, faut être lucide.
J'ai une idée. Si on faisait un site d'information et qu'on le faisait sur internet et que les gens pour le consulter et tout, ils devaient se connecter à internet.
Mais c'est une super idée, ça,
Julien. Putain, mais c'est génial. Et on appellerait ça, attends, jeux vidéo de game. Les gens ils pourraient mettre des trucs, genre des blogs.
Gameblog.
Alors attendez, si tu pars en vacances et que t'as pas internet,
tu vas à la plage, tu fais pas chier.
C'est sur ces paroles intéressantes
qu'il est temps qu'on se barre.
C'est un peu l'idée. Que ce podcast 139 sur les prochaines innovations du jeu vidéo, vous avez vu, il y en a beaucoup qui vont arriver dans les mois à venir, d'autres secteurs sur lesquels ça ralentit un petit peu, mais c'est des espaces en tout cas de test de nouvelles technologies et encore beaucoup de questions à se poser sur les chemins que le jeu vidéo va prendre dans les années à venir. Mais en tout cas, très clairement, c'est encore bouillonnant. Et c'est ça qui est intéressant quand on se pose des questions, c'est que finalement, il y a plusieurs chemins aussi qui s'offrent à nous. Et donc, on verra un petit peu plus clair déjà lors de l'E3 en juin prochain pour, en tout cas, la 3D relief dans le jeu vidéo, la captation de mouvement. Et pour le reste, à suivre. On Live aussi, ce sera en juin d'ailleurs. Oui. Donc, on aura un peu plus d'informations sur tous ces éléments-là. Pour nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau podcast. Il sera dédié cette fois-ci à la saga Street Fighter avec des invités notables, Chris Fighter, eh oui, de l'époque de Player One, de Joypad, etc., qui a écrit l'un des rares livres sur Street Fighter et qui du coup va repasser un petit peu au crible toute cette saga qui est véritablement mythique à l'occasion de la sortie du nouvel épisode Super Street Fighter 4
le 30 avril.
Exactement, et vous saurez par exemple que Street Fighter, le nom appartenait à Namco à l'époque et que le jeu s'appelait Street Fighter 89. Vous en saurez un petit peu plus la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout jouez bien. Et vous le savez, dans les forums, si vous avez des visions de l'avenir du jeu vidéo, n'hésitez pas, partagez-les.
Peut-être que l'histoire vous donnera raison.
Exactement, tu sais de quoi tu parles. Allez, ciao.
Ciao, ciao, ciao.